bienvenue au Père Patrice. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure à 15h, mais vous n'étiez pas là. Le Père Patrice, donc, il arrive de Paris. Merci. Merci à la SNCF d'avoir fait rouler les trains et les avoir même fait rouler à l'heure. C'est quand même un peu exceptionnel, comme on doit dire, surtout dans le contexte actuel.
J'ai reçu un SMS pour dire que j'avais mon train demain matin.
Et même demain matin, alors on est béni. De toute façon, comme dès le départ, on s'est dit au téléphone qu'on partait, on faisait confiance à la Providence, et ben, on a la preuve. Donc le Père Patrice va prendre la parole pour nous partager un peu son expérience sur la mission et sa mission en tant que curé de la paroisse de Bondy et ce qu'il voit. On pourrait presque dire, après l'avoir entendu cet après-midi, ce qu'il voit de l'Église en France. Et vous savez que l'objectif de... Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais l'objectif de cette prise de parole ce soir, de cette forme de conférence de carême, c'est de nous orienter vers la semaine de mission qui aura lieu au mois de mai. Accueillir les séminaristes, se mettre en mission paroissiale avec eux, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Et quel va être notre ressort pour porter l'Évangile? Voilà, donc l'idée c'est de... déjà d'accueillir certaines convictions ce soir. Et puis, parce que c'est un peu notre souci, le Père Anderson et moi, faire en sorte que cette semaine de mission du mois de mai ne soit pas un feu de paille, parce que ça, c'est trop facile d'organiser un feu de paille. Ça peut être très brillant, très, très feu, très fort, mais si après, il n'y a plus rien, ben, c'est un peu dommage. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se mettre en mission, mais de se mettre en mission dans un temps long, comme vraiment notre vocation de baptiser. Et c'est un peu ce sur quoi j'ai demandé au Père Patrice de nous faire réfléchir à partir de son expérience, de sa vie à Bondy. Voilà, en tout cas, merci.
Avec plaisir, Thibault. Je propose, on va se confier à Marie, la Sainte Vierge. Voilà, on va confier cette soirée. Voilà, je vais... essayer de donner quelques visages, je pense qu'on va confier ces personnes à Marie, et puis voilà, nous confier les uns les autres, et notre vocation missionnaire qui nous appartient, qui nous est donnée, qui est un don de Dieu. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
J'ai bien commencé avec la Sainte Vierge, et puis vous verrez dans le parcours, je vous dirais, elle intervient beaucoup, parce que Marie m'aide beaucoup à être missionnaire, et puis dans nos quartiers, la Sainte Vierge, elle parle à tout le monde, qu'on soit hindouiste, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien pratiquant ou pas. Et voilà, et Marie, elle fait beaucoup. Vous savez, voilà, je vais commencer par me présenter, dire un petit peu mon univers, qui n'est pas tout à fait celui de Redon. C'est très content de découvrir, on va dire, un peu les univers. Voilà, découvrir Redon, que je ne connaissais pas du tout. Et puis voilà, vous voyez, parler de la mission, alors je ne vais pas vous faire un topo sur ce qu'est la mission, mais à travers voilà, des situations de vie, ce que j'expérimente un petit peu sur le terrain, ce qui se vit dans nos quartiers populaires, dans nos quartiers dits sensibles, nos zones urbaines sensibles, comme dit l'INSEE, de première classe, deuxième classe, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, dire un petit peu comment passe l'Évangile, et au fond, moi je vais essayer de vous apporter aujourd'hui plein de bonnes nouvelles. Vous dire qu'il y a une Église qui est formidable, et qui est pleine de vie, et voilà, parce que voilà, qui est missionnaire, et nous donner envie d'en partir en mission, parce que c'est quand même beau l'Évangile. Hein. Jésus est quand même formidable. Hein. Et donc, c'est lui qu'on va annoncer. Alors, donc, je vais rapidement pour me présenter. Donc, Thibault a dit, je suis Père Patrice Godin, je suis prêtre du diocèse de Bordeaux. J'ai été ordonné il y a presque 20 ans. Et j'ai eu une première partie de 10 ans à Bordeaux, où j'étais prof au séminaire, j'étais prof de philosophie, ça fait toujours marrer les gens, je ne dois pas avoir la figure du classique du prof de philo. Et j'ai été curé de paroisse à Bordeaux, en paroisse de centre-ville, donc plutôt paroisse que de blanc, bonne société, de temps en temps je m'amusais, j'avais 4 généraux à la messe, enfin voilà, c'était voilà, paroisse de centre-ville classique de l'univers catholique français, classique. Voilà, j'étais très heureux, j'avais plein de trucs, les scouts, on veut futurs voisins. On avait plein de jeux, c'était formidable, les JMJ, tout était super. Puis un jour, j'en ai eu marre. Et j'ai pensé que Dieu m'appelait à autre chose. Donc je suis allé voir l'évêque et je lui ai dit, écoutez, Père, je voudrais arrêter et je voudrais faire autre chose. Et puis il m'a dit, tu veux faire quoi? Ben, je pense que j'aimerais bien aller vivre avec les toxicomanes d'une communauté qui s'appelle le Tchemakolo, qui a été fondée par Mère Elvira, là, qui essaie de s'occuper des toxicos. Et donc j'ai passé un an en immersion presque totale avec les toxicos. Donc c'était un peu, voilà, c'était, je découvrais un univers, donc je suis arrivé... voilà, là-bas. Donc j'ai dormi en dortoir avec les toxicomanes, partagé toute leur... Oui, c'était un peu au début, t'entends, « Seigneur, t'es sympa, t'as des idées, quoi, mais je veux bien te suivre partout, mais là, c'est un peu chiant, ton truc. » Oui, j'ai une prière très incarnée, attends, je ne pars pas dans les tours. Et oui, parce qu'elle se retrouve en dortoir, et puis il m'avait testé un peu des mecs pour savoir ce que j'avais dans le bide, donc je me rappelle, il m'avait fait... Ah, j'étais à peine arrivé, donc il y a des travaux manuels pour... c'est important, c'est pour... Parce que le travail, ça nous aide, enfin, c'est important. Et donc, je me rappelle, il m'avait filé une pioche et j'ai passé 3 jours dans un champ à arracher des ronces. Donc, autant vous dire, moi qui étais prof de philo au curé de paroisse, oui. Au bout de 2 heures, je n'avais plus de main. C'était formidable. Non, et j'ai passé une très belle année. J'ai découvert, je viendrai tout à l'heure, parce que l'univers de la drogue fait partie de l'univers, mon univers quotidien. Et là, j'ai rencontré, bien sûr, un univers de l'univers de la drogue, avec des jeunes et des moins jeunes, toutes catégories sociales confondues, qui avaient été confrontés à la toxicomanie, enfin aux addictions, parce qu'il y a aussi beaucoup lié à l'alcool. Et derrière, moi, ça m'a préparé pour ma... aujourd'hui, au fond, j'ai découvert un abîme de souffrance que je ne connaissais pas. Je ne soupçonnais pas l'existence. J'avais bien confessé des mecs qui avaient fumé des pétards, mais ça n'avait pas été plus loin que ça. C'était pas méchant, méchant, méchant. Là, je pensais, comme c'était l'opinion un peu commune, on dit que la drogue, c'est festif. Je n'étais pas très convaincu du truc. Autant vous dire, je ne suis vraiment pas convaincu du truc. Hein. C'est tout sauf festif, parce que derrière, on y reviendra. Voilà. Donc, j'ai découvert ça. Et puis, l'année avançant, je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Avec le cardinal, il avait des idées, parce que bon, par moi, ça s'était plutôt bien passé. Donc je me suis dit, il va me refiler un truc un peu plus gros, là, un bébé un peu plus gros. Et puis, un matin, à Lourdes, au travail manuel, j'étais derrière une tondeuse à gazon avec un petit gars qui avait eu une vie épouvantable avant de venir, en train de ramasser de l'herbe, parce qu'il ne faut pas que laisser traîner chaud, il faut que tout soit beau. Hein, la beauté, c'est important, c'est très... Ça guérit l'âme, ça apaise l'âme, hein, la beauté. On a besoin du beau. Nos quartiers sont moches, tout est moche chez nous. Et qui me dit, ouais, tu sais, Padré, ce que tu fais avec nous, c'est super, c'est génial, c'est important, mais tu sais, il ne faut pas que tu retournes à Bordeaux, il ne faut pas que tu sois dans tes beaux quartiers, il faut que tu viennes t'occuper de nous. On est des millions à la rue, tu viens t'occuper de nous. La grotte de Lourdes était par là-bas, j'étais avec mon râteau et je me suis dit, eh là, Saint-Esprit est en train de parler à travers ce petit gars, c'est évident. Donc, je continue de ramasser, je suis allé voir l'évêque quelques temps après et je lui ai dit, Père, mais je pense que je ne retournerai pas à Bordeaux et j'ai envie de vivre avec les gens de la rue, les toxicomanes. Donc il a enlevé la calotte là et il s'est dit, oh le con. Je dis des gros mots, vous allez nous corriger, ça m'échappe toujours. Et bref, il m'a dit, bon écoute, pour l'instant, ouais, c'est bien. Alors j'ai dit, vous savez, j'étais un peu fatigué, donc il m'avait donné une année sabbatique, je suis allé à Jérusalem. Puis il a dit, tu reviendras après. Ok. En gros, il a bien changé d'idée, ça va le calmer là-bas. Et puis quand on m'a demandé un peu en cours d'année, bon, tu fais quoi? Ben écoutez, moi j'ai toujours envie de vivre avec les gens de la rue, les toxicomanes. Puis deuxième fois, puis l'évêque me dit, écoute, on n'a pas en réserve, on ne sait pas où t'envoyer, mais par contre, l'évêque de Seine-Saint-Denis te propose, prêt à récupérer des prêts de l'Emmanuel, je fais partie de l'Emmanuel. Ils ouvrent une mission à Bondy, il y a une cité, si tu veux, tu vas vivre en cité et tu verras, ça va être formidable. Donc, moi, une cité, je ne sais pas ce que c'était. J'avais juste entendu parler à travers un article dans Le Monde, Le Figaro, un peu grâce au Rocher, parce que ça commence à arriver dans le milieu catho que. Les cités, il y avait des trucs qui se faisaient là-bas. Ça n'allait pas plus loin. Je me rappelais des événements de Clichy-sous-Bois, là, il y a une douzaine d'années, où il y avait eu, les cités avaient été en feu. J'avais encore les discours d'un certain président de la République qui parlait des raïkaïs qu'il fallait les carchériser. Et je suis arrivé à Bondy avec ça. Voilà. Ce qui m'a préparé, c'est comme Jérusalem. J'ai vécu dans les quartiers arabes à Jérusalem. Donc j'avais vu l'islam, j'avais eu des bons contacts avec l'islam, les voiles, tout ça, ça ne me gênait plus du tout. Voilà. Donc je débarque à Bondy. Je débarque à Bondy il y a 8 ans. Alors, si je vous dis un petit peu l'histoire, L'idée de ma paroisse, alors un quartier sensible, alors la Seine-Saint-Denis, donc c'est un département, c'est le plus petit département en taille, je crois, département français, mais il y a 1,9 million d'habitants, on est les uns sur les autres. Donc chez moi, c'est tout petit, c'est une petite paroisse en superficie, mais c'est très concentré. Il y a donc la Seine-Saint-Denis, il y a 105 nationalités qui cohabitent. C'est énorme, hein? Et dans ma paroisse, dans le quartier, chez moi, il y a 90 nationalités qui cohabitent. Mmh. Et tous les dimanches, je dis la messe avec une trentaine de nationalités devant moi. C'est très étonnant. Hein. Et voilà, donc parfois je suis seul blanc. C'est toujours assez rigolo. mais ça se passe très bien. Voilà, donc pour vous dire un petit peu la géographie, donc toute l'Afrique de l'Ouest est représentée, toute l'Afrique francophone est représentée. J'ai une grosse communauté congolaise, Kinshasa, Brazzaville, j'ai une grosse communauté ivoirienne. J'ai, après, quand on va du côté de l'Asie, j'ai une très grosse communauté sri-lankaise, quelques Indiens, grosse communauté mauricienne, et puis après, des Français des îles, donc la Réunion, très présent. Voilà, quand on reste du côté de l'Asie, des Vietnamiens, tout à l'heure j'en ai parlé, j'ai toute une famille laotienne et laotienne vietnamienne, hindouiste, j'ai baptisé à peu près tout le monde d'un coup. Tout arrivé, bon, la maman est arrivée, les 5 enfants, on vient pour le baptême. Oh, bah, très bien, donc le catéchuména est écrit qu'on a baptisé tout le monde, c'est assez rigolo. Voilà, et puis après quand on passe de l'autre côté de l'Atlantique, donc les Antilles sont surreprésentées, Guadeloupe, Martinique, Haïti, j'ai une très grosse communauté haïtienne, et puis après, quand on est en Amérique du Sud, Chili, j'ai eu un Brésilien quelque temps, Chili, Pérou, alors c'est à l'unité, hein, c'est pas des communautés, et j'ai une communauté capverdienne aussi, j'ai une très grosse communauté capverdienne. Voilà à peu près, puis après dans l'Europe centrale, roumain, serbe, croate, polonais, italien, espagnol, portugais, j'ai beaucoup de portugais, des gitans, voilà, vous avez à peu près tout, quelques gaulois qui sont là, et une bretonne. Une bretonne. Je ne l'oublie pas. Que je vais marier bientôt avec un breton. Voilà, c'est un petit peu la population. La population, donc dans le quartier, donc c'est à peu près entre 10 et 12 000 habitants, c'est très variable, 80% de musulmans. 80% de musulmans, 15% de chrétiens, et dans les 15% de chrétiens, on va dire entre 10 et 12% de catholiques. Après, des évangéliques de tout poil, et évangéliques. Et puis après, pour les 5%, vous mettez des sikhs, des hindouistes, des animistes. Et... Voilà. Sur la paroisse, il y a une synagogue. J'ai une mosquée, et après, donc il y a la mosquée officielle, puis il y a sûrement tout un tas de chapelles non identifiées. On appelle ça un centre socioculturel dans l'État français, parce que c'est très propre, et c'est une école coranique. Et puis j'ai un temple sikh aussi. Bon, c'est très sympa, là, je passais depuis 8 ans autour d'eux, et chez nous, à Bondy, le maire a eu l'heureuse idée, et ça, c'est une belle idée qu'il a eue, il a rassemblé tous les responsables religieux de la ville. Et puis, donc, j'étais assis à côté des six. J'ai écouté, je passe tous les jours à côté de chez vous, là. Est-ce qu'on ne peut pas se voir pour déjeuner ensemble? Venez, mon père et tout. Donc, j'ai débarqué dans un temple sikh, c'est formidable. Alors, quand tu vas manger, il faut que tu aies un peu de souplesse dans les jambes. Parce qu'il faut manger assis par terre. D'ailleurs, on vous met un turban sur la tête quand vous arrivez. Il ne faut pas que les cheveux soient découverts. Et oui, on te met un turban sur la tête, t'enlèves les chaussures. Puis après, tu vas dans la salle de prière, c'est assez instructif. Et puis après, tu vas au repas, la salle de réfectoire est juste à côté de la salle de prière. Ça fait partie de leur vie religieuse, il y a le repas. Mais il faut manger assis par terre. Donc toi, on avait prévu de palabrer assez longtemps, je n'en pouvais plus, je ne savais plus comment me mettre. Ça fait partie des choses. Toutes les nationalités, on mange tout un tas de trucs, c'est formidable. Donc il faut s'habituer. Alors, le bon Dieu m'a fait un estomac qui tient la route. Mais parfois, j'en peux plus, j'ai un stop. Je vais mourir. Voilà, mais c'est assez bon, ça va. Donc, parfois, je suis content, comme ce soir, je suis content de manger gaulois. Alors, ça, en fait, c'était pas le plus terrible. Là où je savais pas comment me mettre, c'est quand je vais chez mes frères et mes amis tamouls. J'aime beaucoup les tamouls. Ah, ben déjà, Ah, les épices. Les Antilles, attention, père, c'est épices. Attends, ça c'est dans les miottes. Là, les Africains, attention, père, c'est épices. Non, c'est dans les miottes. Et les collègues étaient comme là. Père, on a fait léger pour vous. Merci, parce que déjà léger, j'en peux plus. Un jour, j'ai eu le repas, c'était épicé de l'apéritif jusqu'à la compote de menthe qui était épicée. Bref, mais ça, c'est pas le plus dur. C'est quand ils reçoivent le prêtre, ça, je te donne l'info si ça doit t'arriver. Quand c'est, il y a, vous voyez, il y a Dieu, et puis juste après, il y a le prêtre. Et donc, vous êtes, la table est mise. En fait, et en fait, c'est que vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul à la table, et toute la famille est autour de vous, au petit soin. Donc, vous avez un moment de solitude. Vous êtes pas... Moi, je ne suis pas très à l'aise sur ce genre de truc. Donc, en général, j'écoute et vous mettez tout ça dans des tupperwares. Je partagerai avec mes frères après, parce qu'en plus, nous, on sait qu'on dîne à 19h, mais quand vous allez arriver pour bénir la maison à 16h, vous avez le dîner à 16h30. Et vous dites, mais moi, à 16h30, je ne vais pas avaler le demi-éléphant, un farci au poulet et tout le truc. Ou, ça est arrivé, c'était... chez l'ethnie Manjak en Afrique, elle prend un peu le Tchad, et juste à côté, d'un seul coup, le pays m'échappe. Bref, j'avais un enterrement du... C'est pas la Centrafrique, c'était Cameroun, c'était des Camerounais. Donc je me préparais des obsèques, et puis d'un seul coup, donc, il y a un monde de dingue, donc moi, je me faufile avec mon petit fête et saison, l'enterrement, pour trouver les textes. Puis j'avais rien à faire du machin. Mon père, il faut manger, donc il y avait la grande marmite au milieu de l'assemblée. Me voilà avec ma cuillère à soupe, et c'est parti, c'était avant le Covid. Il était 4h de l'après-midi, j'avais mangé le ragoût, je suis reparti comme ça, j'ai pas préparé les obsèques, j'ai dit, la soirée est foutue. Voilà, non, ça fait partie de la joie de vivre, on s'amuse bien aussi. Hein. Voilà, donc pour vous donner un petit peu la tonalité, que dire de tout ça aussi dans les cités. Donc après, ça c'est des chiffres un peu plus tristes. Donc chez nous, la moitié, dans ma paroisse, 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est redoutable, en fait. Hein. Et les jeunes, à peu près 40% de la jeunesse est au chômage. Aussi, alors, la Seine-Saint-Denis, c'est le département le plus jeune de France. Juste après Mayotte, hein, je crois. Mais en tout cas, la France métropolitaine, c'est le département le plus jeune de France. Ce qui veut dire que dans ma paroisse, dans mon quartier, un tiers de la population a entre 0 et 17 ans. Alors, je sais qu'ici, vous, en journée, ça va bien parce que vous avez toutes les écoles. Mais ce n'est pas du tout à l'image du reste de la France. Ce qui veut dire que, par exemple, nous, on a une assemblée d'une jeunesse. Cette année, ça m'a vraiment bouleversé. La messe du mercredi décembre, on a eu énormément de monde. Enfin, j'ai de la chance, j'ai toujours du monde dans l'église. Et je me suis dit, la moyenne d'âge de la messe du mercredi décembre à 19h, il n'y avait pas 30 ans de moyenne d'âge dans l'église. C'était énorme. Ouais, c'est comme ça. Il y a des écoles, il y en a partout. Ce qui veut dire que, là, nous, on a... L'activité du catéchisme à la paroisse, elle est surdéveloppée parce qu'il y a des jeunes. J'ai 200 enfants en caté. Quand tout à l'heure, je les ai fait marrer, j'ai dit, mais mon problème, c'est que je ne sais pas où mettre les gens. Je vois souvent l'école diocésaine pour dire, il faudrait qu'on fasse des travaux, qu'on pousse les murs, qu'on agrandisse et tout. Ils disent, pas bien, vous arrêtez vos délires, hein, parce que nous, on n'a pas de rond. Non, mais c'est vrai, en plus, on a... Et donc, on a beaucoup de baptêmes. Là, tous les ans, on a fait une session des baptêmes des enfants en âge de scolarité, du catéchisme. Et là, enfin, c'est tout. Les basses années, c'est à 25 enfants, un dimanche. Donc j'engueule la responsable du caté pour lui demander ce qu'elle a fabriqué cette année-là. Là, cette année, j'ai quasiment 30 enfants à baptiser d'un coup, un dimanche, avec autant de première communion. Ouais, c'est pas vrai. Mais je vous dis ça parce que ouais, c'est des bonnes nouvelles. Oui, l'Église, elle vit. Hein, ça vaut la peine de se retrousser les manches, parce que parfois, on a l'impression que c'est la fin de règne et qu'on va essayer de se finir le moins mal possible. Non, en fait, on est au début d'une aventure. Hein, et ça, moi, ces lieux-là, c'est extrêmement vivant. Hein, je vous ai dit, voilà, je vous ai donné des chiffres un peu tristes, mais j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a de la joie dans ces quartiers. Il y a de la joie. En fait, c'est des populations qui se sont décidées. Ils se lèvent le matin, disent, je serai heureux. Hein, nous, on peut se lever en disant, je ne suis pas content, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi on n'est pas content, on n'est pas content de ne pas être content, enfin bref. On peut se décider de râler, on peut se décider d'être triste, comme on peut se décider d'être joyeux. Eh bien, c'est des gens qui ont décidé d'être joyeux. C'est beau, parce que pourtant, vous savez, on les a beaucoup décriés, qui fichent rien, que c'est des profiteurs du système, patati, patacoufin, qui vivent des allocations, etc., qui viennent dépouiller la France. Non, faut arrêter les délires. Ça arrive, ça c'est clair, ça arrive. Mais quand vous regardez, c'est quand même une population extrêmement laborieuse. Hein, c'est des gens qui... et surtout les femmes, qui travaillent dur, mais très dur. Alors, vous savez, j'ai mis plus de temps pour faire bondir Montparnasse que pour faire Montparnasse Rennes. J'ai mis beaucoup plus, enfin, beaucoup plus de temps. J'ai mis beaucoup de temps. Vous voyez, tous les matins, il faut imaginer... prenez dans Paris, c'est 1h30 de transport. L'actualité, je sais plus, il y a quelques mois, là, on parlait des problèmes à la RATP où les lignes de bus ont sauté. Oui, bon, les lignes de bus ont sauté, c'est pas grave. Quoi. Il manque un métro. Sauf qu'en fait, pour la population de mon quartier, c'est une demi-heure de transport en plus le matin, une demi-heure l'après-midi. Donc il faut se dire que par jour, il passe 3 heures dans les transports en commun, au moins. C'est délirant. C'est complètement délirant. Et pourtant, je peux vous dire qu'ils sont fatigués. Hein. Ils sont vraiment fatigués. C'est des petits boulots, mal payés, physiquement éreintants. Je ne vais pas faire de politique, mais je pense qu'effectivement, c'est juste quand on dit la retraite à 64 ans pour certains, mais ils ne vont jamais en profiter. Là, je parlais avec une femme que je ne vois plus, là, mais une Congolaise, Christine. Elle dit bah, Christine, elle me dit mon père, j'en peux plus, j'ai l'arthrose. Enfin, je sens qu'elle est au bout du rouleau. Je dis mais tu peux t'arrêter. Elle dit mais non, mais comment je vais faire après? Elle va aller jusqu'au bout de l'épuisement. Parce que 1200 balles par mois, mais il y a 600 balles de loyer, donc vous voyez un peu le truc. Voilà, très très laborieuse, je nous dis souvent ça, parce que quand on ouvre les yeux, regardez dans les gares, qui est-ce qui fait tourner les gares? Dans les trains, qui c'est qui s'occupe de la propreté? Dans les maisons de retraite, qui s'en occupe? Les maisons de retraite chez nous, je ne sais pas comment c'est ici à Rennes et alentour, mais chez nous, c'est une population antillaise à 90%, hein, qui sont là. Et heureusement qu'elles sont là, ces femmes-là, pour... Et dans plein d'endroits, les éboueurs en Ile-de-France, c'est que des blagues, hein. Et une fois, j'ai failli me lever, j'étais dans le TGV, j'allais à Marseille, et je vois un blanc qui était en train de ramasser des poubelles. Je me dis, c'est pour, mais il faut que j'aille le voir. Je me dis, tu fous, là, d'habitude, c'est des blagues qui font ça. Tu t'es paumé tout, quoi. Tellement c'était surprenant. Vous voyez, donc, c'est une population très, très laborieuse, mais qui s'est décidée à la joie. Nous, quand on fait la louange, je peux vous dire que ça dépote, hein. Et pourtant, ils auraient tout dans le cas de la supplication, du gémissement. Pas du tout. On loue le Seigneur. Et ça chante, et ça chante, et ça chante, et ça prie. Voilà, il y a cette joie-là. Et ces quartiers ont beaucoup à nous apporter du point de vue de la joie, avec toutes les misères qui peuvent nous tomber dessus. Voilà un petit peu ma paroisse, le quartier. J'en parlerai tout à l'heure, mais évidemment, ces quartiers, hélas, les enfants souffrent beaucoup de plein de choses, d'une mauvaise éducation. L'école, aujourd'hui, a sombré. Hein. Ni plus ni moins, enfin, ça ne veut pas dire que les profs se battent pas, enfin, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Et nous, ce qui est en train de remplacer, enfin, c'est quand même le trafic de drogue. Hein, la paroisse, enfin, nos quartiers sont gangrénés par le trafic de drogue. J'ai 7 points de trafic de drogue sur ma paroisse. Sur un peu. Hein ? Oui, ils sont tous connus. Oui, il faut que ça soit connu. Alors, il y a les connus, puis expliquer, il y a aussi, nous, on a du trafic de gros, là, qui se connaît moins, sauf le soir, d'un seul coup, il n'y a plus de lumière dans la ville, donc leur dit qu'il y a une livraison qui va arriver. Un soir, je fermais l'église hyper tard, j'ai une espèce de voiture complètement louche avec des mecs complètement, je me serais cru dans un film de policier, je dis, bon là, je rentre vite dans l'église, ce n'est pas le moment de jouer au héros. Je pense qu'il y avait un truc pas du tout académique. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure, parce que ça fait partie d'une partie de mon ministère, c'est de m'occuper des dealers et d'aller voir un peu ce que fabriquent les dealers, de parler avec eux, de tout un tas de choses, et parfois de Dieu, et de prier un peu avec eux, en tout cas les amener au Seigneur. Voilà, un petit peu le contexte de la paroisse, c'est aussi ce qu'il faut comprendre aussi dans nos quartiers, c'est important de l'avoir. Je dis ça aussi parce que je donne un peu la conclusion. C'est que nous, chrétiens, on parle bien de ces quartiers, qu'on les regarde bien. Il y a un discours ambiant en France. Dès qu'il y a un problème en Ile-de-France, c'est forcément des jeunes des quartiers. Ce qui est une aberration, ce qui est une ânerie. Un certain discours politique qui peut être séduisant aussi pour nous, chrétiens. Non, en fait, parlons-en bien. Et encore une fois, il y a une église qui est vivante. Hein. Mes 30 baptêmes, je ne suis pas le seul. Hein. Tout à l'heure, on en parlait dans la voiture avec le père Thibault. Nous, prêtres de Saint-Saint-Denis, quand on se voit avant Pâques, c'est pas de savoir si on va avoir ou pas des catéchumènes et des baptêmes à Pâques, c'est non, c'est la question elle est déjà résolue, c'est sûr, c'est combien on va en avoir. Et on sait déjà que l'année prochaine, on en aura d'autres. Voilà, ça c'est vivant, ça évangélise de partout. Voilà. Donc on en parle bien, et d'une église vivante. Je l'ai un peu à peine dit, mais aussi la caractéristique, et ça parce que c'est des choses qu'on a perdues en Occident et, j'ai envie de dire, dans le monde des Blancs, Dieu est partout présent. Un jour, j'avais fait un article, c'était dans La Croix, le journaliste avait fait ça, Dieu est à tous les coins de rue. Partout, partout. Quand je vois les dealers, c'est pour parler de Dieu. Enfin, c'est pas moi qui arrive avec le sujet, hein. C'est eux qui ont des questions à poser. Partout, 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 on parle du Seigneur. C'est une population qui est fondamentalement croyante, qui est ouverte sur Dieu, d'où sa joie, parce qu'il y a une confiance en Dieu qui est assez étonnante. Hein. Inch'Allah, tout le monde peut le prononcer, on sait que Dieu va s'occuper de nous. Et c'est très bien. Puis si on a un petit doute, ben justement, c'est le rôle du chrétien, du prêtre, de dire, mais non, t'inquiète pas, Jésus va s'occuper de toi, Jésus va te guérir. Voilà. Et donc c'est une population qui est vraiment ouverte complètement sur Dieu. J'ai dû rencontrer en 8 ans de présence là-bas 2-3 personnes qui se sont déclarées athées et c'était des Gaulois. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Voilà. Donc voilà un petit peu le cadre de là où je vis. Alors voilà comment on parle de Dieu. J'avais la mission, elle est vachement facile. La mission est très facile. Moi j'étais surpris. On attend ces populations qui attendent beaucoup du prêtre, et y compris la population musulmane. Ils attendent beaucoup. Vous savez, il y a une femme qui m'a beaucoup aidé à comprendre ma mission de curé. Elle s'appelle Salma. Elle est égyptienne, musulmane, voilée, tout. Et elle est au marché. Donc je vais la voir très fréquemment. Après, quand il y a lieu, je vais toujours lui dire bonjour. On parle assez bon. Assez longtemps, puis on échange les premiers mots en arabe, donc c'est toujours agréable. Ça l'a surpris, je crois, la première fois où je lui ai parlé arabe, et puis à chaque fois, on continue, puis on parle de choses et d'autres, et puis là, c'était tout au début, j'étais juste arrivé, elle m'a dit, Père Patrice, je vous dis quelque chose, vous êtes le prêtre pour tout le monde ici, vous n'êtes pas que le prêtre des chrétiens, vous êtes le prêtre pour tout le monde. Elle dit, donc, vous priez pour tout le monde. Et je me suis dit, c'est beau, parce qu'en fait, c'est une musulmane qui a compris quelque chose de la vocation du prêtre. C'est quand même beau. Moi, jamais un chrétien m'a dit ça. Enfin, jamais, même au séminaire, on ne m'a pas dit ça. Enfin, j'ai trouvé ça très touchant de la part d'une musulmane. Alors, quand je vais la voir, elle m'a dit, bon, Père Patrice, vous n'avez pas prié pour moi cette semaine, là, j'ai plein de problèmes. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je trouve ça tellement beau. Mais ça nous... Comme prêtre, ça nous fait du bien qu'on nous dise ça, moi je trouve. Hein, et même qu'on nous dise « t'as pas prié pour moi », effectivement, ça nous ramène à une vocation de prêtre. Hein, on est là aussi pour prier, on nous demande d'organiser beaucoup de trucs, de machin, c'est très bien. Mais au fond, notre vie, elle est quand même auprès du Seigneur. Quoi. Enfin, c'est aussi important, vous voyez, vous allez être en mission. Il y a une mission qui est très facile, c'est de prier pour les gens. On prie très peu pour les gens. Et vous savez, moi je finis toujours mes discussions, très souvent, je prie pour toi, mais j'ajoute aussi, tu vas prier pour moi, que la personne elle soit musulmane, hindouiste, et même quand c'est un dealer, je dis, tu vas prier pour moi, et moi je prie pour toi, parce que je sais qu'il va le faire. Mais c'est très touchant en fait, vous savez, et en fait, moi je me suis aperçu combien ça a ouvert des cœurs, quand je dis simplement ça, un jour j'ai dit ça au... Pas l'imam, parce que nous en France on pense que l'imam parce qu'on essaie de comprendre l'islam comme la religion catholique. Donc on a les curés, puis on a les imams de l'autre côté. Non, ça ne marche pas comme ça, pas du tout. Enfin, tout de suite, il y a le président de mosquée qui tire toutes les ficelles. Lui, il est un peu dans l'ombre, il n'est pas connu, mais il tire toutes les ficelles. Et donc Mohamed, que j'aime bien, là, le président de la mosquée chez moi, on le voit assez souvent, on s'appelle, je lui souhaite un joyeux Aïd, et il me répond joyeux Noël, joyeux Pâques. Ils ont toujours un petit message, c'est sympa. Et un jour, je lui dis bah, écoute, Mohamed, tu pries pour moi, et moi je vais prier pour toi ce soir. Et en fait, ça lui a ouvert le cœur, parce qu'en fait, le musulman, il prie, en fait, il est connecté directement sur Dieu, et on porte peu les intentions des autres. Et puis, je me rends compte, quand on dit ça, alors c'est très difficile, hein, vous essayerez demain, avec votre voisin, de dire ça, vous allez voir l'effet que ça va faire. Ça va lui faire du bien, vous, ça va vous brûler les lèvres de dire ça. Hein, mais c'est vrai, mais ça, c'est une vraie mission, hein, de porter les gens dans la prière, et de leur dire, je vais prier pour toi. Nous, occidentaux, on va, si quelqu'un a un problème, on va chercher des solutions. S'il a mal au genou, maintenant j'ai un super médecin, j'ai un super ostéo, je connais un rebouteux dans le coin, tu vois, votre médecin, nickel. On cherche une solution, on sait très bien. Hein. Mais c'est beau aussi de dire à la personne, parce que la prière va prendre toute la personne. Essayez, petite mission, vous allez dire ça à votre collègue de travail, à votre voisin, je vais prier pour toi. Un jour, j'ai dit ça à un évêque, je ne vous dirai pas quel diocèse, on était sur l'autopo, j'ai dit, et quand vous rencontrez le préfet, vous lui dites que vous allez prier sur, pour lui, pour que l'évêque s'est un peu recroquevillé sur son canapé. David a dit, c'est ce mec là. Non, mais vous imaginez, le jour où les évêques disent au préfet, je vais prier pour vous, ben, ça va quand même changer pas mal de trucs. Mm-hmm. Non, vous ne croyez pas? Eh bien, essayez sa première mission, n'attendez pas les séminaristes. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir pour dire qu'il a un petit problème ou je ne sais pas quoi, ou des gros problèmes, on va prier. On va prier. Moi, je vous dis ça parce que j'ai appris ça. Hein. Jamais, enfin, je pouvais dire à des personnes, je vais prier. Mais moi, je rajoute, écoute, on va demander à Jésus de te guérir. Là, ça pique. Hein. Ouais. Ben, moi, j'ai appris ça avec les gitans. Avec les gitans. Parce que les gitans, ils y croient, en fait. Ils ont la foi. Hein. Tous ces gens-là, ils ont la foi. Nous, on n'a pas la foi. On sait que Dieu existe. On sait un certain nombre de trucs, mais on n'a pas la foi jusqu'à dire, on va prier pour que tu guérisses. Mais ça nous fait du bien d'entendre ça. Ça nous fait du bien de le dire. Donc, les gitans, ils viennent me chercher. Parce qu'il y avait la tante Isabelle qui était en train de mourir. Elle était vraiment en train de mourir. Vous savez dire que... Donc ils viennent me chercher, les gitans, quand ils viennent me chercher, en fait, ils me kidnappent. Et parce que sinon, quand vous appelez votre curé, bon, il y a Tati qui va pas bien, donc le curé regarde l'agenda, c'est urgent. Ouais, ouais, bon, tout à l'heure à 14h, c'est bon, c'est à peu près comme ça qu'on fait. Hein. Ouais, ouais, ça va. Bon, les gitans, si j'ai tout à l'heure à 14h, t'es comme lui, mon gars, tu prends ton, tu y vas tout de suite. Et donc il m'attendait, en fait, il m'appelait, il m'attendait déjà dans l'église. Donc j'ai juste le temps d'arriver, je prends ma petite fiole d'huile des malades. Et me voilà parti à l'hôpital dans un patelin qui s'appelle Montfermeil, juste à côté. Et effectivement, j'arrive dans la chambre, tout est le médecin du monde débranché, puis effectivement, c'est aussi visible que le nez au milieu d'un visage, la tante, il ne restait pas très 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 longtemps, il était plutôt mal en point. Et donc, et le médecin dit ça, il dit, non, non, ne vous inquiétez pas, partez, on va prier, elle va guérir. Moi, je dis rien. Là, vous accrochez aux branches, vous dites, Seigneur, tu sais ce que tu fais. Moi, je réponds, il n'y a pas besoin de dire. Parce que je n'ai pas la foi. Parce que je n'ai pas la foi. Et donc, je fais le sacrement des malades, je fais tout, tout, la recommandation de l'âme à Dieu. Enfin, c'est très beau, c'est parti d'ailleurs, c'est très touchant. Je vous donne envie, là.
Elle ouvre les yeux.
Elle n'a pas ouvert les yeux tout de suite, mais 3 jours après, elle était chez elle.
Oui.
C'est ça la mission. Hein, la mission, c'est aussi Jésus, sa mission, c'est de guérir les malades. Hein. Et puis, je trouve que c'est beau. Alors parfois, on s'en sort un peu parce qu'on dit on va prier pour que tu ailles bien. Même quand on donne le sacrement des malades, on va demander à Dieu de te réconforter et tout, parce qu'en fait, on a la pétoche. On a la pétoche. Eh bien, on va prier pour que Jésus te guérisse. Et puis, si on a la foi, qu'est-ce que dit Jésus dans l'évangile?
Et toi, il marche.
Et donc c'est ça aussi la mission, dire aux gens, on va prier pour toi. Et on a à la fois la puissance de la prière. Et la prière fait plein de choses. Moi je vois des quantités de miracles, mais vraiment plein de... Voilà, notre petit miracle, vous voyez, j'aime bien cet exemple que j'ai donné tout à l'heure. Pardon pour Père Thibault, là, il me... Voilà, la puissance de la prière qui touche les cœurs. Ça, là aussi c'est une femme, moi, qui m'a fait découvrir... Au fond, là, le sacerdoce, la beauté du sacerdoce avec Annie. Et alors Annie, c'est une femme qui est décédée, pour le coup. Puissance des sacrements, puissance de tout ce qu'on peut faire pendant... Et Annie, donc, alors une femme, le contexte, elle est à la retraite. Une femme qui avait subi de douloureux dans son corps tout ce qu'une femme peut subir. Rien ne lui avait été épargné au cours de la vitesse. Rien. Et elles disent que le samedi matin, je mets en général dehors pour parler un peu aux gens. Et puis Annie, elle descendait de chez elle, qui était à côté de l'église. Elle s'arrêtait, il y a une petite murette devant l'église. Elle fumait un premier paquet de clopes, elle allait faire son marché, elle revenait fumer un deuxième paquet de clopes et elle remontait chez elle pour la semaine. Et puis elle avait un vocabulaire formidable. à faire rougir les légionnaires. Un tempérament absolument incroyable. Bref, on a toujours discuté, on a échangé sur plein de trucs. Je me rappelle qu'elle me disait, non, moi, je sais pas prier, je sais pas prier, enfin bref. Et puis un jour, je vois plus Annie. Annie avait disparu des radars. Je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand c'est comme ça, je vais voir Rachid. Rachid, il connaît tout le monde au marché, tout ça. Il dit, Rachid, où est Annie? J'ai pas de nouvelles. Il va non plus, mais je crois qu'elle est malade. Mais elle est malade. J'ai vu Patricia. Ben, il dit, bon, allez, je vais aller la voir. Annie, surtout pas. Et Annie a dit, elle veut voir personne. Et effectivement, c'est écrit sur le panneau quand je suis arrivé chez elle. M'emmerdez pas. Alors j'ai dit, écoute, Dieu leur a sa fille, tu dis que moi je suis disponible, et quand elle veut, j'y vais, je vais prier avec elle, enfin je fais la visite. Le même jour, tout ça, ce que je vous dis, c'est absolument hallucinant. Alors, vous savez, quand on a envie d'évangéliser, quand on veut faire des choses, tout ça c'est sur quelques heures, ce que je suis en train de vous raconter la première partie. Donc Rachid fait son boulot, c'est quand même beau la mission, ça passe par le musulman. Hein. Et donc je vis ma vie, etc. Et je vois... Patricia qui arrive à l'église, je ne savais pas que c'était sa fille, je dis, oh, toi, t'es pas habitué à l'église, là, parce qu'on voit bien les gens qui sont habitués à l'église, ils font l'impossible de croire. Voilà, bon. Hein. Moi, je leur dis, vous avez l'arthrose du genou, là? Non, alors, le genou par terre, s'il vous plaît. Dans la cité, on peut se permettre de... Je ne suis pas sûr que tu puisses faire comme moi. Hein? Ah, moi, je leur dis, quand ils ne se mettent pas à genoux devant Saint-Sacrement, là, j'ai dit... Vous avez de l'arthrose au genou à votre âge? J'ai le Saint-Sacrement. Non? Allez voir tout le monde à genoux, s'il vous plaît. Bref, Patricia arrive et elle me dit, voilà, maman est malade, elle a dit, va me chercher mon pote le prêtre. Bon, ben, très bien, donc là pareil, je récupère vite l'huile d'onction des malades, mon rituel, et me voilà mardi chez Annie, là on prend l'ascenseur, et on est parti, je ne sais plus quel étage. Et ben voilà, devant Annie, donc on échange tout un tas de trucs, et puis ben, on parle, à ce moment-là, on parle un peu franchement. Écoutez, Annie, est-ce que vous voulez... Puis ça me dit, ben, voilà, je vais crever, les médecins ne me laissent aucune chance. Annie, est-ce que vous voulez qu'on prie un peu? J'ai jamais prié, c'était son truc. Bon, c'est une femme blessée, hein, j'ose pas, bref. Et puis bon, on continue de discuter. Annie, est-ce que vous voulez... voilà, vous allez rencontrer le bon Dieu. Est-ce que vous voudriez vous confesser? Elle réfléchit. On se dit vraiment, elle réfléchit. Puis elle me dit non. Je sais pas faire. Je veux pas me confesser. Qu'à cela ne tienne. J'insiste pas. On continue de discuter de choses et d'autres. Il y avait la télé qui marchait d'à côté. Puis je dis, vous savez, Jésus dans l'évangile, il a guéri. Il a fait un beau sacrement qui s'appelle le sacrement des malades. Est-ce que vous voudriez le recevoir? Voilà, pour que le Seigneur vous prépare, vous allez le voir. Donc il faut se préparer. Donc il y en a pareil, je la vois qui réfléchit et qui me dit d'accord. Donc là, vous dites quand même, il se passe des trucs. Donc je sens anti-rituel. Donc on commence à faire la. Voilà. Alors j'étais comme sur la dimension du pardon. J'écoutais, vous savez, Annie, nos vies, elles sont ce qu'elles sont. On a commis des péchés. Voilà, je vous propose d'en faire une petite démarche. On va dire ensemble, je confesse à Dieu. Et c'était, mais donc je commence, je confesse à Dieu, répète après moi, mais je n'ai jamais dit, vous me suivez, je confesse à Dieu Tout-Puissant, répétez, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Moi, je voyais physiquement le ciel s'ouvrir. C'était absolument incroyable. Je voyais physiquement le ciel s'ouvrir. Donc, j'ai donné le sacrement des malades, j'ai fait voilà, l'imposition des mains. C'était vraiment un temps de prière d'une pauvreté pauvre, quoi. Pauvre, parce qu'il n'y a pas de chant. Enfin, mais voilà, on suit le rituel, on prie. Très simplement, avec une femme qui a visiblement peu prié. C'est beau. Donc je repars. Et en ayant conscience d'avoir vécu une espèce de moment dans une vie de prêtre un peu unique, un peu étonnant. Voilà. Et puis bon, je pars en vacances. Je pars quelques jours après en vacances, en priant pour Annie. Et puis je rentre de vacances. Et puis voilà, puis je me suis dit, tiens, mais Annie, j'ai pas de nouvelles. Donc j'appelle Patricia. Où elle m'appelle, enfin bref, et qui dit vite, Père Patrice, vite, maman va mourir. Donc la nuit, une, deux, tic-tic-tic-tic-tic-tic, j'arrête tout ce que je fais, et je file chez elle, effectivement, c'était les derniers instants. Donc c'était la panique dans la maison. Et puis, ben voilà, j'ai dit, écoutez, je vais prier avec elle. Donc elle était inconsciente, bien évidemment. Il y a un ex-gendre qui était là, on a dit notre père, je voyais ce pauvre gars qui essayait de se rappeler de son notre père et de son je vous salue Marie, sa première communion, c'était absolument magique. Et puis après, ben, je bénis, Annie, je vais vous bénir, et je vois l'exemple qui était lui aussi à côté. C'est la foi des petits, c'est l'évangile des petits, c'est des petits dans l'évangile, en fait, c'est des bras cassés, quoi. Enfin, c'est pas des docteurs en théologie qui ont raté leur nom, c'est des petits, quoi. Et donc, je fais la bénédiction, et elle rend son dernier souffle. Elle rend son dernier souffle. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable que le Seigneur, cette femme qui a tant souffert, cette femme qui s'est passé des choses horribles dans cette vie, eh bien, il était là au dernier moment. Et le plus beau, c'était beau parce qu'on a pensé, on allait faire des funérailles chrétiennes, on allait passer à l'église. Et la famille est venue me voir en disant, vous savez ce qu'on a trouvé sous son oreiller ? Une image de la Vierge Marie, Notre-Dame du Rocher, qu'elle avait rencontrée. Et moi, je ne me rappelais plus, mais j'avais donné une petite médaille miraculeuse qu'elle avait gardée. Et je me dis, c'est ça la mission. Là, tout à l'heure, j'avais dit, mais... ayez des paquets de médailles dans les poches. Vous en donnez. J'aime pas la vie, je vous dis ça, j'en ai pas pris avec moi. Mais j'ai commencé, j'en avais plein les poches. Dès que je vois une maman avec des petits, je donne des médailles. Et en fait, la mission, c'est semer. Annie, ça a apporté un fruit de dingue. Parce que moi, je me rappelle l'évangile hein, où Jésus dit, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Donc moi, je me dis, Annie, moi, je suis assez content parce que je pense que j'ai quelqu'un qui va m'accueillir. Qui s'appelle Annie. Et après, donc, on a l'enterrement, c'était beau, parce que la famille a vu la petite madame miraculeuse, donc on l'a mis, elle était incinérée, donc la petite madame miraculeuse, elle est sur l'urne. Et on a dit, c'était beau, moi je suis allé au cimetière, on a tout fait, parce que c'était que les bras cassés de la cité, enfin c'est le carmonde, quoi. Mais c'était beau, c'était touchant, les gens se sont laissés toucher par l'évangile. Voilà, et alors Patricia me dit, papoterie, je crois que j'arriverai jamais, je ne pourrais pas rentrer tous les dimanches dans une église. Fais ce que tu peux. Et donc de temps en temps elle rentre, elle vient mettre un siège quand elle n'est pas bien, qu'elle a envie de se suicider, elle vient dans l'église, elle vient voir Père Patrice, on remet un siège. Et elle m'a dit après, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc j'avais mis un siège avec elle pour sa maman, elle m'a dit, vous savez, Père Patrice, le jour où on a mis le siège à la Vierge Marie, maman n'a plus jamais souffert. Elle n'a plus jamais eu souffrance. Et donc ça, tout ça s'est resté. Patricia, cette année, elle est venue, elle me dit, j'ai mal partout, ben, écoute, viens, on va prier pour toi, pour le sacrement des malades, j'ai fait une célébration communautaire. Donc elle était là, elle est venue, oui, c'est. C'est ça la mission, c'est on amène des gens à Dieu et il se passe des choses. C'est sûr que Annie, elle était dans aucun clou, elle a vécu l'évangile à sa manière, je crois, et puis la dernière minute, en tout cas, elle s'est rappelée que Jésus existait et qu'il l'aimait, quoi. Et pareil pour sa fille, qui rentre pas, mais moi je me dis, elles l'oublieront jamais, enfin, sa famille n'oubliera jamais ce qui s'est passé. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est aussi ça, la mission, cette simplicité. On prie pour les gens. Vous voyez, donc avant, souvent, on a peur de devoir rentrer dans des grandes discussions. J'apprends sur le terrain avec ces gens-là. Parfois, vous savez, je ne peux pas rentrer dans des grandes discussions parce qu'ils ne parlent pas français. Parfois, on est parti sur des grands trucs, des grands développements, la foi catholique, enfin, bam, 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 bam. C'est bien, hein, c'est super, hein. En fait, ça ne sert à rien. Quoi. Enfin, si, c'est utile. Enfin, en fait, vous voyez, dans l'évangélisation, ce n'est pas ça. On est beaucoup plus simple sur le message de l'évangile. Qu'est-ce que Jésus a dit ? Qu'est-ce que Jésus a fait ? Moi, ce que j'aime bien, c'est... moi, j'ai appris ça au fond d'un évangélique. C'est raconter la vie de Jésus. Raconter la vie de Jésus. Je dis souvent ça aux grands-mères, mais à vos petits-enfants, racontez la vie de Jésus. Souvent, on fait de l'évangélisation, on fait de la morale, au fond. Donc, non, évangéliser, aller en mission, c'est pas dire aux gens qu'il faut aller à la messe tous les dimanches. C'est important d'aller à la messe. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est pas d'abord ça, qu'il faut jeûner le vendredi, qu'il faut, je sais pas quoi, faire des chapelles, qu'il faut faire des chemins de croix, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça. Non. C'est d'aller porter la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est pas une morale d'abord, c'est une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Vous saviez qu'il est ressuscité. Vous savez, hein,
oui.
Ça nous brûle le cœur, hein.
On l'a dit.
Ça nous brûle le cœur à la résurrection de Jésus. Hein. Non ? Est-ce que ça nous brûle le cœur ?
Oui.
Ben, c'est ce qu'il faut l'annoncer. C'est tellement beau, c'est tellement grand, que je vais le dire un peu partout. C'est une bonne nouvelle. C'est ça qu'on a apporté. Hein, c'est la bonne nouvelle. Alors, on n'est pas là pour faire la morale aux gens. Parfois on a peur. On s'en fout. Oui, mais mes dealers. Mes dealers, je vais les voir tous les jours à peu près. Je n'y vais pas d'abord pour leur dire ce qu'ils font, c'est mal. D'abord, ils le savent. Ils savent très bien qu'ils sont... tout ce qu'ils font est répréhensible, etc. Mais moi, j'y vais d'abord, d'abord en ami. En ami. Je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là... Vous voyez, c'est hier soir, c'est une belle discussion. Là. Il était un peu tard, il était un petit peu plus tard que ça. Là, je rentrais d'une visite. Et puis là, je vois une belle brochette. Là, j'ai une belle brochette. Ici, les flics débarquent d'un coup. Là, ils en récupèrent 7, 8 d'un coup. Là, ils étaient tous alignés. C'était formidable. Donc, on a rigolé, on a discuté. Et puis, je dis, vous savez, je vais à Redon. Vous savez où c'est, Redon? C'est par là. Et puis, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais parler un petit peu de ce qu'on vit dans notre quartier, parce qu'on vit des belles choses. Et puis, j'en dis, je rencontre des gens formidables, comme vous. Regardez. Non, c'est toi qui es formidable. Je dis, non, je ne suis pas formidable. Mais vous êtes des garçons formidables. Il y en a qui disent, mais en fait, c'est tellement beau, je ne sais plus comment il a tourné le truc. Ça fait du bien que quelqu'un nous dise ça. Vous savez, la mission, c'est aussi ça de... On est conscient, on est convaincu comme chrétien de la dignité de la personne. Ça, c'est un vocabulaire, c'est un concept. Mais concrètement, de dire, s'il y a quelqu'un, t'es vachement digne, on s'en fout. Me dire, t'es quelqu'un de bien, t'es beau, t'es formidable, voilà, t'es un type bien. Vous voyez, et ça touche énormément. Et hier, ils étaient vachement touchés, les gars. Ils sont partis, je suis parti tranquillement. Et je sais que c'est resté. Je sais que c'est resté dans les cœurs. Moi, je m'en suis aperçu, j'aime bien ce témoignage, c'est un autre garçon qui était dealer devant l'église, s'appelle Jason. Jason, où il dealait, alors lui, quand il deal, ils ont toujours la capuche sur la tête. Il faut qu'il fasse les durs. Parce qu'en fait, c'est tellement mou à l'intérieur, il n'y a tellement rien à l'intérieur, c'est tellement vide, qu'il est sur le visage, il faut montrer un peu de dureté, etc. Alors Jason, au début, je dis, et Jason, tu sais, quand tu souris, t'as vraiment une belle gueule. Il y a plus de dents devant, mais en fait, on ne lui avait jamais dit. À ce moment, j'ai dit, mais tu sais, quand tu souris, t'as vraiment une belle gueule, t'es un beau mec. Ah bon? Il a fait sourire. Mais c'est ça la mission aussi. Et Jason, un jour, dans je ferme l'église, il était vachement tard, je ne sais plus ce que j'avais fichu. Alors l'été, je laisse l'église ouverte jusqu'à 22h, parfois j'oublie, 23h, j'ai l'église est ouverte. Mais il y a des gens qui rentrent, donc ils vont prier, il faut laisser prier. Donc je ferme quand même l'église pour aller me coucher. Et puis Jason est en bas, et puis il me dit, ouais, Père Patrice, est-ce que tu me lâcherais les clés pour que j'aille prier cette nuit? Je prends trop sauté, je lui balance, oui. Donc le gars attrape les clés, comme de ronds de flanc. Puis il me dit, mais pourquoi t'as fait ça? Bah, Jason, tu m'as demandé les clés.
Pour prier.
Pour les prier. Moi, tu sais que j'ai confiance en toi. T'as confiance en moi? Bah, oui. Si tu m'as dit que tu veux les prier, c'est que tu veux les prier. Je sais qu'il ne va pas saccager mon église, et que tout va bien se passer, et que demain, l'église sera nickel. Ah, oh bah c'est la première fois qu'on me dit un truc comme ça. Puis alors, pour le coup, je te fais un gros câlin. C'était magique. Ben moi, j'ai compris plein de trucs là-dessus. Ça fait partie de la vie, pourquoi ces jeunes souffrent. Il n'avait jamais, je pense, été aimé. En tout cas, par un papa, c'est évident. Il n'y a jamais un papa qui l'a pris dans ses bras. Jamais personne ne lui avait dit, Jason, j'ai confiance en toi. Et en fait, tout était gagné là, à ce moment-là. Tout était gagné à ce moment-là. Alors Jason, il a refait de la tôle après, je vous rassure tout de suite.
Mais il est allé prier.
Non, parce qu'il m'avait quand même redonné les clés. Ah. Il m'avait quand même redonné les clés. Mais ça m'est arrivé d'amener des dealers devant le tabernacle. Ça m'est arrivé une fois ou l'autre de les amener et de dire, écoute, viens, on va prier. Et les gars, ils sont est-ce qu'on peut aller prier? On va prier. Donc on est monté dans l'église, on est allé prier. Vous voyez, donc c'est ça la mission. C'est aussi de dire, tu as du prix, c'est un beau passage dans Isaïe, tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ben, de dire à quelqu'un, tu sais que tu as du prix. On est peu convaincu de ça. Hein. Il y a une sous-estime de soi qui est quand même assez développée. Et donc il faut vraiment y être attentif. Moi, c'est une grosse partie de ma mission. Mais dans mes prédications, si je ne le dis pas tous les dimanches, je ne l'ai pas dit. Mais à chaque fois depuis 8 ans, bam, ça fait mouche, hein. Parce que les gens sont un peu convaincus, parce qu'on a des boulots de merde, parce qu'on a des vies complètement délabrées, etc. Donc d'un seul coup, on n'imagine pas un seul instant qu'on a du prix, on n'a pas de prix aux yeux des Français, on n'a pas de prix aux yeux du gouvernement, on n'a pas de prix à plein de trucs. Et ça touche toujours. Il y a un passage que j'aime beaucoup faire redire dans les homélies, ça. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. C'est beau dans le psaume. Hein. Je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Eh bien, j'ai tenté, ne vous êtes pas, on va s'arrêter, on va regarder Jésus en croix. On va dire, je te rends grâce, Seigneur, pour la merveille que je suis. Et on essaie une fois. C'est dur la première fois.
Hein. Ça fait prétentieux quand même, non?
Hein?
Ça fait prétentieux.
C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu.
Oui.
Moi, j'invente. Bah oui. Vous allez faire votre prière ce soir et regardez le crucifix. Seigneur, je te rends grâce pour la merveille que je suis. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Vous voyez ? Moi, je passe mon temps à faire ça. Je passe mon temps à faire ça. Alors, de temps en temps, je tranche un peu quand même. Les dealers, je passe pas leur temps à dire que ce qu'ils font, c'est formidable. De temps en temps, je les prends par la manche. Là. Il en pense quoi, là, du truc, là ? Et puis, tu as pensé à ton salut un peu, là ? Parce que si Allah te demande ton âme, là, tout à l'heure, là, il va se passer quoi dans l'éternité pour toi ? Essaye de changer un peu rapidement. Puis quand c'est un chrétien, dis donc, je te rappelle que tu es chrétien, là, tu sais que Jésus, il aime pas. Là, là ce que tu es en train de faire, Jésus, il aime pas. Donc, tu sais, il va falloir se convertir un peu, hein, de temps en temps. Hein. Et puis quand c'est un N plus 1, donc un type qui est au-dessus, qui exploite ses petits, là, je lui fais une catéchèse sur l'enfer. Direct. Je lui dis, attention, toi, si Dieu te demande ton âme ce soir, moi, je réponds de rien, là, je peux pas. Tu cours les peines de l'enfer, et je te promets que c'est douloureux. Ah ben, il faut percuter les cœurs. Hein. Là, j'ai autant les petits, j'ai vraiment de la compassion pour eux, pour beaucoup. Autant ceux qui gèrent le trafic, je l'ai. Mais c'est pas que je peux pas, je veux pas, c'est que je ne peux pas. C'est le mal pour moi absolu. Et là, je suis obligé de... Il faut rentrer dedans. Hein.
Et vous n'avez jamais eu d'agression physique en retour ?
Ah ben, j'attends. Ça m'est arrivé. Cogne. Cogne. J'ai dit, tu peux payer. Le premier, tu m'assommes tout de suite parce que moi, je ne te rate pas.
Ouais.
Et en général, ça calme tout de suite. Parce que devant l'église, je mets des règles du jeu. Quand même, ça trafique devant l'église, donc je mets des règles du jeu. Donc, que tu sois devant l'église, ça, dont acte, je ne peux pas le faire autrement. Je n'ai pas appelé les flics pour le virer. Il y a ce genre de trucs à ne pas faire. Mais il y a deux règles. C'est tu ne plantes pas autour de l'église parce que ici, tout ça, c'est chez moi. Donc, l'église, c'est pur. Je parle comme ça, hein, parce que quand c'est des musulmans, c'est un constat qu'ils comprennent. L'église, c'est pur, ce que tu fais, c'est impur, donc c'est pas possible, ça marche pas.
Il y a un code, quoi.
Je mets les codes. Donc, interdiction. Si je trouve ce que tu as planqué, je le prends, je le mets à la poubelle. Donc, ça m'arrive de trouver. Donc, ça part à la poubelle. T'entends, ça reste un certain temps sur mon bureau. Je fais attention. Et si je te trouve en train de planquer chez moi, je te promets que je te défonce le crâne. Et je vais cogner, et je vais cogner fort. Alors, de temps en temps, je chope les mecs, je dis, qu'est-ce que je te dis ? T'as 3 minutes pour le virer, parce que moi, ça va dégager. Et puis, une fois ou l'autre, c'est arrivé, c'était un peu monté dans les tours. Donc là, j'ai dit, moi, je bouge pas, vas-y, on y va. Ça va vite cogner. Alors, les N plus 1, justement, se méfient un peu, se méfient de moi. Donc, je le laisse régler la question. Donc, il règle la question. En général, le gars disparaît.
Oui, mais ça pourrait se régler avec une arme à feu, par les N plus 1.
Non, parce qu'ils savent que moi, je suis protégé par tout le reste de la cité, donc ils joueront pas avec ça. Puis j'ai le tempérament pour être devant. C'est arrivé parce que j'avais trouvé une grosse quantité. Donc là, le gars est arrivé me disant, il m'appelle chef, t'as un truc qui m'appartient. T'es qui pour m'appeler comme ça, toi ? Tu me dis vous et mon père, s'il te plaît. J'ai dit, est-ce que tu ferais ça à la mosquée ? Ah ben, je suis chrétien. Ce qu'il ne m'avait pas dit. Là, j'étais mis à deux doigts de l'assommer. Et j'ai dit, écoute, je te laisse une demi-journée pour te convertir. Tu viens te confesser, t'arrêtes ça tout de suite. Parce que si tu continues, c'est l'enfer pour toi. C'est l'enfer. C'est ce que tu fais. C'était au service du démon. Mais c'était brutal. Hein, mais je n'ai pas d'autre solution. Hein. J'ai pas d'autre solution que de brutal. Hein. Alors, faites pas ça dans la mission paroissiale. Hein. C'est pas beau. Ne faites pas ça. Hein. Alors c'est un risque, alors pour régler les problèmes, souvent voilà, moi je repère les niveaux de chef, et puis un jour il y a un gars qui m'a cassé les pieds, donc j'ai dit écoute, t'inquiète pas, j'ai pas le bon chef, tu as dit ton gars là tu me règles la question tout de suite, puis comme ça va bien se terminer. Donc le gars est arrivé penaud à 17h pour s'excuser, puis il a disparu de la circulation. Il faut que je fasse très attention parce que je sais que ça peut se régler par les armes et pour les autres. Donc parfois je trouve effectivement, donc je récupère, là je me couvre, j'appelle un ami qui est commissaire de police, me dit écoute, j'ai de la drogue dans mon bureau, s'il m'arrive quelque chose, je me couvre. Enfin, genre, j'ai des frères prêtres qui sont beaux, qui ne connaissent pas ce que c'est que le péché. Puis il me dit, mais c'est quoi de la drogue ? Alors, j'ai dit, bon, attends, t'inquiète pas, c'est quoi, je t'en ai amené. Puis alors, moi, je récupère, je mets ça dans la poche, clic, et je vais faire mes courses chez Darty, je cherche la carte bleue. Mais t'es idiot, quoi, non ? J'ai dit, mais si, non, je vais un truc, voilà, mais voilà, ça fait partie de... voilà, c'est pas tout mon apostolat, bien évidemment, vous voyez, mais derrière tout ça, c'est de repérer un petit peu aussi toute la question de la fragilité. Hein. Pourquoi on se drogue? C'est parce que derrière, il y a des souffrances, et toutes les addictions, il y a des souffrances énormes. La drogue, c'est une mauvaise réponse à un vrai problème, à un mal-être qui est épouvantable, épouvantable. On le sait bien, quand on souffre, quand on a mal, que ce soit aux genoux, aux intestins, au bout d'un moment, on est prêt à prendre tous les médicaments. Même Thérèse de Lisieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, la Thérèse de Lisieux, à un moment, dit, heureusement qu'on a éloigné les médicaments de ma table de nuit. Hein. Parce que quand on a mal, je dis souvent, tu sais, si tu as une rage de dent qu'on n'arrive pas à guérir et tout, si un type qui te dit, mais prends le Domestos à côté des toilettes, t'en mets un peu sur la dent, tu verras, ça va passer. On va le faire. C'est comme ça. Donc il y a ce mal-être, et donc ils sont un petit peu... ils sont dedans. Alors, vous voyez, pour contrer, justement, on peut partir peut-être de là, pour contrer un petit peu ce phénomène qui est énorme, et puis qui est en train de s'amplifier, parce que le mal-être chez les jeunes aujourd'hui, qu'ils soient blancs, bleus, tout ce que vous voulez, il est comme ça. Donc les trafiquants ont de très beaux jours devant eux. Si vous avez de l'argent à investir, n'investissez pas dans l'immobilier, mais investissez là-dedans, vous allez avoir un retour sur investissement qui va être formidable dans quelques mois. Donc nous, là, je fais du catéchisme parce qu'il faut en faire, mais je surdéveloppe le catéchisme, j'ai monté un patronage, on a surdéveloppé les servants d'hôtel, et une des raisons, c'est pour ça, pour que mes gars, notamment les garçons, ça concerne surtout les garçons, à un moment ou à un autre, ils se poseront la question. Soit de la consommer, mais s'ils commencent à consommer, il va falloir financer, donc il y a l'idée du trafic qui va être derrière, parce que nous, on n'a pas de fric. Dans les beaux quartiers à Redon, ça va, les parents, ils donnent toujours l'argent de poche, donc il y a suffisamment de quoi financer. Chez nous, ils n'ont pas nécessairement de l'argent de poche, donc ça va, il va falloir y passer. Donc c'est pour ça qu'on a développé très vite le caté. Moi, je sais, alors je ne peux pas sauver toute la cité, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, j'ai quelques garçons qui sont fidèles au caté, qui sont fidèles, on fait des sorties, on ne fait pas du caté, je les amène visiter Paris, parce que quand vous habitez Bondy, vous ne connaissez pas nécessairement Paris. Vous n'êtes peut-être jamais allé, j'ai des garçons à 20 ans qui ne sont jamais allés à la Tour Eiffel, qui ne savent pas ce que sont que les Invalides, qui ne savent pas ce que sont que le Louvre, ça n'évoque rien. C'est rien. Et donc on développe un petit peu tout ça, justement, pour donner d'autres ancrages, d'autres raisons de vivre. Voilà, donc ça nous permet aussi de faire un vrai suivi. Ouais, j'ai parlé tout à l'heure, je n'ai pas donné l'exemple tout à l'heure, mais j'ai un garçon qui quand je quitterai Bondy, ça sera un vrai sujet de fierté. Il s'appelle Andy. Donc lui, je l'ai récupéré une préparation au baptême, là, le mec des cités dans toute sa splendeur. Il avait 12 ans, c'était il y a 8 ans. Ça de vous, quoi. On parle, je suis fatigué. Je ne sais pas si c'est comme ça ici, mais chez nous, c'est redoutable. Donc l'écran, enfin bref, vie scolaire épouvantable, mais pas aidé par la famille. Une maman qui est super, une maman qui est vraiment géniale. Un papa, la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que j'allais me balancer par la tête tellement de tension. Enfin, le papa était infoutu de se lever de son fauteuil pour me dire bonjour. Et infoutu de me raccompagner une fois que j'avais fini ma visite. Bon, je me fichais parce qu'il m'intéressait les gamins. Et donc Andy, je le récupère. Il dit, écoute, tu vas être servant d'hôtel. C'est quoi ? Je viens dimanche à 11h. Donc on met une aube, on essaie d'apprendre à se tenir, parce qu'il s'est pas tenir, je vais vous faire barrer. Je ne sais pas si on a le temps ou pas, je vais vous faire... J'ai récupéré un autre gars comme ça, donc il ne sait pas s'asseoir. Donc je l'amène au service de l'hôtel, je vais donner la communion solennellement, tout ça, je ramène Jésus, et je vais mon servant d'hôtel, t'es comme ça sur le fauteuil, là. C'est magique. Mais c'est génial, parce qu'on a du travail à faire. Quoi. On a... Et donc, on a un petit Andy, donc on le récupère, caté, aumônerie. Alors, il faut faire du vrai suivi, parce qu'il ne venait pas tout le temps. Et j'avais décidé de rien lâcher. Donc, le mec n'était pas là à 11h moins le quart. J'appelais à la maison où j'allais sonner. Et je récupérais le mec. Je dis, toi, t'es là, coco. Et puis, quand je faisais mes tournées de rue un petit peu... Je faisais mes tournées parce que je savais qu'il était en échec scolaire, plus. Donc, lui, bien impliqué dans la cité, je savais que le trafic lui pendait au nez, et puis qu'il n'y avait qu'un demi-pas à faire. Et plusieurs fois dans mes tournées de cité, donc quand je fais la tournée de cité, c'est pour rencontrer tout le monde, mais je rencontre aussi les gens, alors je me mettais de l'autre côté, je fais comme ça. Et donc, mon gars vient, je dis, tu me rassures tout de suite, là. Le terme technique, c'est bicraver. T'es pas en train de bicraver, là. Non, je vous assure. Alors, t'as intérêt. Donc, je vais plus te voir ici. Tu dégages, parce que je te promets que je vais te défoncer la tête. Et tu dégages. une fois, deux fois. Après, c'est passé, on n'en reste pas là. Donc, il a commencé à faire les sorties avec moi à Paris, machin truc, le groupe des lycéens, le monde. Et puis, il a basculé, j'avais fait du ski, faire des camps ski. Et puis, et à Rome, j'avais fait une sortie à Rome avec des lycéens. Donc, il a basculé, le gars fidèle à la messe. Et puis, je lui ai offert son BAFA. Puis, du coup, t'en dis, t'es un mec bien. Tu peux faire des trucs. Est-ce que si tu veux, moi j'ai besoin d'animateurs, je veux monter un patronage, j'ai besoin d'animateurs, je pense que tu peux le faire si ça te plaît. Je te propose de t'impliquer pour la paroisse et moi je te paye ton BAFA. Et donc il a marché. Et là où j'étais très heureux, c'est en septembre dernier, je devais faire un mariage, je partais toute la journée, je devais être du côté de Royan, j'avais des heures de train à faire entre Bondy et je ne pouvais pas être là pour le patronage, le responsable du patronage, je ne pouvais pas être là, je dis punaise, c'est embêtant d'annuler. Et puis Andy me dit, mais t'inquiète pas, Pépé, alors ça c'est mon surnom Pépé, Père Patrice, ça a donné Pépé, donc tout le monde m'appelle Pépé, les jeunes, les vieux, les musulmans, tout ce que vous voulez. Et il dit, t'inquiète pas Pépé, moi je suis là, je vais m'en occuper. Et en fait, je suis parti serein parce que Andy était là. Et moi, je suis vachement content parce que Andy, je pense qu'il ne basculera pas. Il ne basculera pas. Vous voyez, donc c'est une des raisons pour lesquelles aussi on a développé tant de choses et qu'on y met beaucoup d'énergie. Le catéchisme, on y met énormément d'énergie. J'ai de la chance, ma population antillaise est remarquable et donc mes antillaises, mes femmes ont été formidables. Voilà, on s'occupe des gens et ça marche. Et ça marche. Encore une fois, je ne sortirai pas tous les jeunes de la cité, d'assassins de la drogue, ça, j'en ai pas la capacité. Mais au moins, pour quelques-uns, on s'occupe d'eux, on s'occupe bien d'eux. On essaie de faire des trucs un peu sympas et ça marche. Et ça marche. Voilà, donc il y a des belles. Voilà, ça fait partie des belles réalisations avec Andy et avec le patronage. Ce que je voulais vous dire aussi dans la mission, dont j'ai parlé, on prie, voilà, on annonce la bonne nouvelle, puis que les gens, la beauté des gens, enfin, sous le regard de Dieu. Et je vais terminer par là. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle aussi de. Se mettre, essayer de comprendre la culture des gens, quoi. Hein, d'où ils viennent. Vous savez, pourquoi, ça fait faire un petit détour aussi avec l'islam, pourquoi on parle tant de la montée de l'islam en France ? Ce n'est pas une raison nécessairement religieuse. La grande souffrance de beaucoup, notamment des jeunes, c'est de n'avoir aucune identité. On n'a aucune identité. Parce que nous, Français, nous ne les regardons pas comme des Français, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, sauf dans quelques rares cas, et je pense que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est nous les chrétiens. On sait que ce sont nos frères. Et on a cette capacité d'ouverture, et je pense qu'on est à peu près les seuls à pouvoir le faire. Mais voilà, on est comme une minorité aujourd'hui en France. Hein. Et donc, Mohamed, il sait qu'il a moins de chance que Jean-Michel Hibou. Ça, il le sait. Il le sait, pourtant, il est né en France. Moi, c'est assez rigolo, j'avais une discussion, un petit gars qui est arrivé, un blondinet, vraiment c'était formidable, le blanc blondinet, tout, il avait tous les codes, tout ce qu'il fallait du gaulois. Alors lui aussi, il avait pas, faut que tu l'engueules là, parce qu'il veut rien foutre de sa vie et tout. Alors je sais plus comment il s'appelle, il est arrivé du Nord. Puis un gars qui est à côté, il me dit, mais tu te rends pas compte de la chance que tu as. Regarde, moi je m'appelle Mohamed, je suis né en France, j'aime la France. Il était vraiment dans la vérité, j'aime la France. Mais j'ai aucune chance parce que je m'appelle Mohamed. Toi, regarde, t'es blanc, tu t'appelles, tu s'appelles Christian, je crois. Tu pourrais tout faire, et t'es feignant, tu veux pas travailler. Ça va être sans dur. Hein. Mais, vous voyez, donc Mohamed, il a aucune chance. Le problème, c'est que Mohamed, quand il va en Algérie, quand il va au Maroc, Mamadou, quand il va au Mali, il est pas chez lui. Hein. Puis on lui fait bien sentir là-bas qu'il n'est pas chez lui. Hein. Et, il n'est pas algérien, il n'est pas malien, il n'est même pas, il est pas congolais. J'ai découvert ça cet été. Parce qu'ils sont profondément français, au fond. En tout cas, dans le peu de culture qu'il y a, et même dans le vocabulaire. Un jeune Congolais aujourd'hui qui est né en France, il n'a pas l'ombre, vous écouterez, soyez attentifs, il n'a pas l'ombre du début d'un accent congolais, malien, algérien, parfois il parle pas l'arabe, rien du tout. Même chez les Asiatiques, ça va, je me dis. Parce que c'est un prêtre congolais qui me dit, mais ils sont tous noirs comme moi. Mais ils n'ont pas l'accent du pays. Moi, ça m'a éveillé. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Et ils parlent comme les autres blancs, comme les autres. C'est le même vocabulaire, même intonation, tout ce que vous voulez. Ils n'ont pas l'accent. Et ça m'avait frappé avec des Asiatiques. Je connais bien les parents. Là, c'est ce que j'ai tout bâtir. Les parents, ils parlent pas très mal le français. Mais les enfants, wesh, wesh. Et donc, quand ils vont au pays, ils sont perdus. Ils n'ont aucune envie de bouffer ce que bouffent les grands-parents, les tontons et les tatis. Et donc, d'un seul coup, qui je suis, où je suis, d'où je viens. De nulle part. Et donc, il y a l'islam qui est là, qui donne un bout d'identité, qui donne un bout de truc, un bout de culture, un bout de tradition. Enfin, imaginez qu'en Seine-Saint-Denis, on n'a aucune tradition. Vous avez la tradition de la châtaigne, vous avez la tradition de tout un tas de trucs, de Saint-Bélaine, vous avez Pardon en Bretagne, vous avez tout un tas de traditions. Et dans toutes nos régions françaises, on a tout un tas de traditions. Et bien dans nos quartiers, on a zéro tradition, rien. On a aucune base culturelle, rien. Vous voyez, pour ces jeunes, donc un bout de tradition, on va la retrouver avec l'islam. Donc on fait le ramadan, alors je dis tantôt, on jeûne avec une bouteille de rosée, c'est pas un problème. Bouffera pas de saucisson, parce que bon, c'est à peu près le seul truc. Hein. Ils n'iront jamais pas plus que ça à la mosquée, feront l'Aïd, on fera une grosse bouffe pour l'Aïd, mais ça va s'arrêter là. Vous voyez, donc c'est toute leur difficulté. Voilà, donc je disais ça pour la culture, c'est de comprendre d'où ils viennent. Hein, et justement, vous voyez, moi, je suis très heureux, notamment, j'avais une grosse communauté sri-lankaise, c'est essayer de redonner à toutes ces populations un petit bout de leur tradition, notamment pour leurs jeunes. Donc, j'avais commencé pour l'île Maurice. Maurice, ils ont un très grand saint qui vient de Normandie, le père Laval. Vous connaissez le père Laval ? Vous êtes de Maurice, peut-être ?
Oui.
Ah ! Alors, ben, moi, j'ai mis une icône, une grande image du père Laval dans mon église, et donc ça m'attire tous les Mauriciens du quartier. Il est au début du mois de septembre,
c'est le
9 septembre. Ouais. Donc quand c'est un dimanche, on fait la messe d'introduction.
Et après, c'est la fête dernière.
Oui, exactement. Donc les Mauriciens ont fait la fête à Père Laval, et ils font l'apéritif et tout. Donc j'ai mis le Père Laval. Et pour les Sri Lankais, j'ai mis Notre-Dame de Vemankeni. J'ai découvert ça avec mes frères prêtres qui sont à Sarcelles. Oui, voilà. Et donc, alors Notre-Dame de Vemankeni, vous ne connaissez pas, c'est tout à fait normal. C'est un énorme sanctuaire marial dans le sud de l'Inde, qui date de la période portugaise. C'est énorme. Quand je vous dis c'est énorme, vous imaginez que Lourdes, à côté, ce petit oratoire de campagne, ça va pas plus loin, ça a attiré des millions de personnes. Et donc, j'ai compris ça, mais Sri Lankais, là, je ne sais pas comment faire avec eux, parce qu'ils ne parlent pas très bien français, enfin bref, et donc, j'ai une jeune Sri Lankaise, bon, qui est française, hein, mais d'origine Sri Lankaise, qui est artiste, j'ai dit, écoute, tu me fais un tableau de Notre-Dame de Vemankeni, je le fais comment ? Ah, tu me le fais comme au Sri Lanka, donc il y a tous les trucs de fleurs, les médailles, les machins, les trucs, vous ne mettriez pas ça dans votre salon, mais moi, je l'ai mis dans mon église, mais ça leur parle. Et en fait, quelqu'un qui me voit, donc on a fait l'introduction solennelle, j'ai dû dire un petit mot en Sri Lankais, et puis après, bon, on a dit déjà vous saluer en Sri Lankais. Il y a un monsieur qui m'a dit, mais Père Patrice, on vous remercie. On a un petit bout du pays ici. Et en fait, Notre-Dame de Vemankeni, elle me fait un boulot de dingue, parce que j'ai fait traduire toutes mes petites affichettes, les dates de baptême, de machin, j'ai fait tout traduire en Sri Lankais, et puis j'ai tous mes petits flyers, et puis ça défile. Et donc, il n'y a pas que des chrétiens qui sont dedans. Et c'est super. Là, on s'adapte un petit peu au truc. Voilà, c'est ça, la mission, c'est simple. Hein. Et puis, voilà, on dit bonjour aux gens, on essaie de leur dire qu'on les aime.
Vous n'êtes pas tout seul, vous avez des... comme prêtre.
Si, j'ai pas de vicaire.
Ah bon ?
Ouais, j'ai pas de vicaire, ouais.
Waouh !
Mais j'ai plein d'équipes, en fait. Non, il y a du monde. Hein. J'ai découvert ça... Tu sais, dans la culture antillaise chrétienne, le service de l'Église, c'est un peu marqué. On sait qu'on doit donner un coup de balai, qu'on peut faire le catéchisme, du secrétariat, voilà, en fonction de ses compétences. Donc moi, je suis arrivé, je bossais les antillaises. Alors j'ai un peu ouvert, parce que les antillaises, c'est bien, mais il faut ouvrir aussi dans le canton, donc on gaulait, on demandait, etc. Donc voilà, j'ai énormément d'équipes.
Il faut appeler un diacre.
Hein ? Vous voulez venir, mais il va pas être content, Père Thibault.
Non, mais... C'est trop vieux.
Non, mais
dans la population, vous pouvez appeler un diacre.
Vous n'y tiennent pas trop.
Non.
Ouais, vous savez, c'est une autre question qui est beaucoup plus large. On est en train de discuter avec l'évêque. C'est que, en fait, on a des gens qui sont peu cultivés. Quand je vous dis qu'ils maîtrisent 300 mots de vocabulaire, c'est 300 mots de vocabulaire.
Aïe.
Ça, c'est une vraie question qu'on est en train d'aborder. Là, j'ai monté une petite structure qui s'appelle la Fraternité Missionnaire des Cités. On va essayer de se regrouper tous les prêtres des cités de France, pas que de l'île de France. Et un des sujets qu'on est en train d'aborder, qu'on va faire monter auprès de nos évêques, c'est de dire, bon, les vocations, c'est quand même un peu la catastrophe en France. Il n'y a déjà plus beaucoup de jeunes catholiques. Mais nous, dans nos quartiers, des jeunes, on en a. Hein. Nous, on en a. Des garçons, on en a. la Seine-Saint-Denis, quand l'évêque il fait le rassemblement de Pâques, un lundi de Pâques où tout le monde est cuit, il a 2000 personnes. Et sur les 2000 personnes, il y a 1500 jeunes. Nous, des jeunes, on en a, c'est pas le problème. C'est vraiment pas le problème. Le problème, c'est quand je lui dis, écoutez, monseigneur, moi je vais bien appeler des garçons sacerdotes, hein. Mais ils tiennent pas 5 minutes dans un séminaire tel qu'il est. Ils tiennent pas 5 minutes. Comment on fait? Il faut voir comment on les appelle, qu'est-ce qu'on leur propose, comment on les forme. Le système scolaire s'est effondré en France, et chez nous, il est 6 pieds sous terre. C'est pas simplement des problèmes de profs, ça va beaucoup plus loin. J'ai des jeunes qui, aujourd'hui, ne maîtrisent en conjugaison que le présent de l'indicatif. Aujourd'hui, je vais à l'école, demain, je vais à l'école, hier, je vais à l'école. On ne va pas plus loin. Alors, ne demandons pas le passé simple, un peu de passé composé éventuellement, ne demandons pas un subjonctif quel qu'il soit, ni un conditionnel quel qu'il soit, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai des jeunes qui, mentalement, ont une structure du temps 15 jours devant, 15 jours derrière. Dans mes prédications, quand je dis Saint-Augustin au IVe siècle, autant vous dire que je vais chercher loin. Hein. Saint-Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, autant vous dire que là, j'aborde un truc nébuleux. Mais aucune connaissance. Mais c'est affligeant. Hein. Mais même de l'actualité. Début d'année avec mes 18-25, là, je sais pas, la tournure est arrivée sur les questions de l'écologie, etc. Si vous avez entendu parler qu'il y a eu des canicules cet été, là, je ne sais plus c'était. Ah non. Je crains un peu. Les rapports du GIEC, ça vous dit quelque chose? Quoi? Et donc, c'est tout ça. Hein. Donc, nous, cette année, hélas, on a supprimé, j'ai dit à la responsable catéchisme, on arrête d'acheter des livres du catéchisme. Il ne touche même pas le livre. Parfois, on a au moins le livre, on l'a posé sur la table de chevet, on a l'impression d'avoir un livre de chevet, mais un truc, ça n'existe même pas. Donc, on essaie de trouver des palliatifs, il faut quand même lire, etc. Mais si vous ne savez pas lire, vous ne rentrez pas au séminaire. Hein. Si vous êtes incapable de tenir un bouquin, même ne serait-ce que 5 minutes, on ne tient pas 5 minutes au séminaire. Hein. Donc c'est une vraie question. C'est une vraie, vraie, vraie question. Donc, on va creuser parce qu'il faut l'aborder. Mais encore une fois, des jeunes, on en a. Hein. Et puis quand je parle à un petit servant d'hôtel, t'imagines, tu pourrais être père Elton. Ouais, Patrick, bah, si, pourquoi tu ne serais pas père Elton? Et puis père Melvin, là, ça serait joli aussi. Là, tu sens que ça mouline et que c'est, la réponse n'est pas nécessairement négative parce qu'ils sont contents de servir la messe tous les dimanches. Et plus, quand je leur demande tiens, ce soir, puisqu'il faut être là s'il vous plaît, donc ils sont tous là. Et donc, c'est des vraies questions. Hein. Mais voilà, mais j'ai plein d'équipes à côté, donc ça va, c'est bien. Comme les gens sont contents de la paroisse, donc ils sont très généreux.
Mais vous êtes un peu piégé là, parce que quand vous aurez fini votre mission, si on vous renvoie dans une ville normale, vous aurez la nostalgie de...
Non, mais je pense que je vais être épouvantable pour les paroissiens.
Oui.
Parce que si je commence à vous parler comme je leur parle, autant vous dire que... Si je commence à... Je vous laisse 5 minutes pour vous convertir, parce que vous commencez à m'emmerder, là. Si je commence à dire, bon, il n'y a personne à la génuflexion, là, pour l'adoration, là, il y a de l'arthrose partout, là, ou... Donc, il va falloir... C'est sûr... Non, mais je pense que... Je ne sais pas ce que le bon Dieu voudra... moi j'ai fait le choix, enfin mon évêque à Bordeaux il est complètement d'accord, et l'évêque de Saint-Denis, de rester assez longtemps en Seine-Saint-Denis. Après, voilà, si...
Aujourd'hui est aujourd'hui.
Oui, bon, on pense toujours un peu à l'avenir, forcément, mais c'est vrai que je serais content de... Parce que, en fait, je ne vous ai pas dit, mais il y a 5 millions de personnes qui vivent en cité, hein, et dans les quartiers sensibles. Un Français sur 12. C'est énorme. Une église, donc, je l'ai dit, qui est extrêmement vivante. Extrêmement vivante. Un missionnaire, c'est des gens qui, je vous ai dit, bah oui, ils passent leur temps à dire à leurs collègues, on va prier pour toi. Là, les gens que je baptise, c'est pas moi qui les ai évangélisés. Hein. J'ai peut-être deux filles, si, il y a deux filles, je les vois dans la rue, ils disent non, tu veux pas être baptisé. Ah ouais. Oh, très bien, catéchuménat, je vais les baptiser, je fais deux fois. Et mais souvent, c'est des collègues de travail, puis c'est des jeunes, souvent, ils amènent leurs copains. Voilà. Donc voilà. Moi, j'aimerais rester. Donc, il y a 5 millions de personnes qui sont sous les radars. Là, aujourd'hui, ils sortent un petit peu de radar parce que je vous en parle. Donc, c'est vrai que dans l'univers chrétien, Espérance Banlieue, Le Rocher, la Maison Bernadette a sorti un peu cet univers, les a mis un peu en lumière. Et aujourd'hui, sûrement avec la Fraternité Missionnaire des Cités, on va essayer de mettre en lumière tous les prêtres qui sont et les paroisses où il se passe des trucs. Mais c'est du délire, en fait. Hein. Encore une fois, nous, notre problème, c'est que nos églises sont petites. Hein. Nous, notre problème, c'est qu'on va se dire ça marche tellement bien qu'on va s'endormir à un moment ou à un autre. C'est pas un problème. La mission est facile et ça se fait, on a nos équipes. Voilà, donc l'idée, c'est de rester en cité. Mais après, bon, on dit, je sais pas, j'irai à la Courneuve, ou je sais pas où. Si l'évêque me dit, ben écoute, tu vas. Ah oui, c'est, ça, faut que je fasse attention à l'heure. Voilà, donc pour l'instant, l'idée.
Mais il faut suivre physiquement, parce que ça ne doit pas être. C'est pas de tout repos. Vous êtes jeune, vous êtes dynamique, vous avez la carrure, mais dans 20 ans, ça va être dur.
Je serai moins jeune et j'aurai moins la carrure.
Je vis le temps présent du Seigneur.
Je vis le temps présent.
Oui, non, mais ouais, tu veux. Ben, moi, pour moi, je me régale, donc c'est vraiment pas difficile. J'ai, en fait, c'est un plein d'avantages. J'ai rien le soir, moi j'ai toutes mes soirées. À 19h30, c'est plié. Parce que, bon, on a une petite paroisse, donc j'ai pas de compte. De toute façon, les gens, je vous dis, ils ont 1h30 de transport. Donc la messe à 19h30, c'est terminé. On se dit au revoir. Et puis je sens que tout le monde est parti aller se coucher. Je demande rien le soir. J'avais l'heure sainte le jeudi soir. Je mettais de 20h30 à 21h30. J'ai fait machine arrière il y a 6 mois. Donc, hop là, heure sainte, 19h, 20h. Jésus, je sais, vous avez demandé 23h, 24h, mais là, c'est pas possible. Et le bon Dieu m'en veut pas d'avoir décalé. Je dis aux gens, vous venez 5 minutes, faites ce que vous voulez, mais à 20h, vous êtes dehors, l'église est fermée. Donc moi, j'ai mes soirées. Et en plus, je suis assez content, et puis j'ai aucune envie de faire des trucs le soir. Donc, je cherche un théologien qui me dise que, en fait, la messe de minuit, c'est plutôt le matin que ça se fait. Non, je rigole.
Voilà, donc, il y a la messe de l'aube. Hein.
Oui, il y a la messe de l'aube. Ouais. Voilà, non, c'est vrai qu'il faut tenir un petit peu. Le plus dur, c'est pas tant les activités, mais c'est qu'on est sur une population qui est très instable. Moi, voilà, mon patronage samedi, je ne sais pas ce que Rodrigue a fait, ce qu'il a préparé, j'en sais rien. Et donc, on avance un peu à l'aveuglette, des gens qui vous disent on sera là, puis qu'en fait, on n'est pas là.
C'est très charismatique.
Il y a un sport national, c'est de jamais répondre au téléphone. Vous laissez 15 messages, je ne sais pas comment c'est chez toi, Redon, mais c'est juste à s'arracher les cheveux. Donc ça, c'est parfois, c'est assez éprouvant, en fait. Donc, c'est pas là où pour flipper. si vous, je pars à Bordeaux, je rentre chez moi, vos magasins. Ah non, ben vous changez, là, parce que j'en ai assez. Et donc, ça, c'est le côté un peu plus difficile, parce qu'on est sur on est toujours sur de l'instabilité. Tout est instable, et puis il n'y a pas de raison, objective à des absences, et puis d'un seul coup, le type ne vient pas, et personne ne s'excuse, vous êtes au courant de rien. Donc ça, parfois, c'est un peu pénible. Ouais. Je le sais, mais bon, j'aurais du mal à m'y faire.
Et vous ne souffrez pas un peu de solitude parfois aussi par rapport à ces cultures très différentes et dans votre mission, vous êtes parfois seul, non ?
Ben, j'ai jamais éprouvé ça, en fait. C'est vrai que c'est pas du tout ma culture. Alors, ça je le sais très bien, en fait, qu'on se comprend pas. Il y a plein de trucs où je comprends pas. Pourquoi ils font comme ça? Je pense qu'ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait, le père Patrice? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Pourquoi il a fait ça? Donc, ça, je le sais. Donc, ça me. Voilà, j'en prends acte. C'est comme ça. J'essaie de. Voilà, je crois que ce qui me sauve un peu, c'est que j'ai un peu d'humour. Donc, ça m'aide. Voilà, mais c'est vrai que parfois, on se comprend pas. Ça, c'est évident. Hein. Puis moi, j'ai 30 nationalités, autant de cultures à gérer. Enfin, Congolais, c'est pas un Ivoirien, quoi. Et puis, un Congolais, c'est pas un Burkinabé, c'est pas un Béninois. Nous, on a mis l'Afrique, on a l'Africain. Ben, enfin, si on dit l'Europe, ça veut rien dire, l'Europe. Ben, un Anglais, c'est pas un Français, un Français, c'est pas un Allemand. Ben, c'est pareil avec l'Afrique. Donc, il faut essayer d'intégrer tout ça. Tantôt, je comprends 2-3 bricoles. Tout à l'heure, je parlais avec Thibault, c'est le début. Hein. Les Antilles, c'est hyper marquant. Je ne comprenais rien aux Antilles. La première fois que je suis allé aux Antilles à la messe, c'était en vacances. Je suis arrivé à la messe à dimanche avec mes tongs. J'étais en Bermuda, t-shirt, enfin le touriste de base. Bref. Et puis, je vois cette paroisse, je découvre la messe le dimanche. Ça courait dans tous les sens. Et c'était surtout les dames qui gèrent tout là-bas. C'est fait, mais elles géraient tout. Je me dis que. Mon affaire, c'est par mes cultures. D'ailleurs, là, c'est le curé qui dit un petit peu, qui est un peu le chef d'orchestre. Bon, je sais, enfin, en plus, le curé est pas venu, donc du coup, je me retrouve à célébrer la messe. Juste une procession d'entrée pour penser à l'homélie. Donc, je fais le truc. Alors, le premier truc que j'ai appris, il y a un gars qui vient voir, c'est un blanc, il me dit Père Patrick, vous avez bien prêché, mais en fait, les gens n'ont rien compris, vous parlez trop vite. Donc, ça, c'est un truc que j'ai appris. Il faut parler lentement.
Mais oui.
Là, c'est gentil, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Père. C'est immuable. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au revoir et bon dimanche. Au revoir et bon dimanche, Père. Mais après, en arrivant à Bondy, en fait, j'ai compris plein de trucs. En fait, les Antilles, je vous donne cet exemple, j'ai compris que c'est une société matriarcale. Complètement matriarcale. C'est la femme qui gère tout, parce que je ne comprenais pas, c'était que des femmes seules. Je voyais les mecs dans un coin, malheureux comme pas possible. En fait, ils s'étaient fait foutre dehors parce qu'ils ne gèrent rien. Ils ont très peu d'accès aux enfants. Ça a été des géniteurs, c'est tout. Et la femme, aux Antilles, il y a un concept sociologique, elle dit elle est le poteau mitant qui tient à case. Ça, c'est des restes de l'esclavagisme. C'est une société hyper hiérarchisée entre eux. Donc on connaît, il y a les béquets, les blancs qui gèrent tout, là, qui ne sont pas très aimés. Puis après, vous avez les chabins, les machins, les trucs, et ça communique très peu. Et puis parfois, et je me suis aperçu quand je suis en Paris, il y a ça. Donc comme curé, vous essayez de mettre tout le monde ensemble, et ça ne marche pas trop, puis vous comprenez, oh là, effectivement, donc là, il faut casser un certain nombre de trucs. Voilà, donc j'essaie de comprendre un petit peu où on en est, en marchant sur des œufs, et puis t'entends, ben là, moi, je m'impose, c'est moi qui décide, plusieurs fois, c'était comme ça, c'est moi qui décide, et bien jusqu'à un certain moment, j'ai dit, non, le pot de fleurs, c'est moi qui vais décider où on le met, le pot de fleurs, parce que je sentais que ça allait être une question un peu épineuse. Et j'ai dit, c'est moi qui le mets. Et puis, quand je prends les premières vacances, je me méfiais un peu parce que. Bon, ma chance, c'est que ces petites dames me craignent. Mais quand je suis en vacances, je me dis, oula, qui va faire le ménage dans cette paroisse? Donc, je me méfiais quand même un peu. Mais j'avais compris un petit peu tout ça. Donc, d'entendre, je suis content. Alors, j'aimerais aller en Afrique, en Congo et tout, pour comprendre un petit peu plus comment ils vivent, ce qu'ils pensent. À Maurice aussi, je rêve d'aller à Maurice, c'est sympa en plus. Donc, je suis allé à la Réunion, on comprend plein de choses comme ça. Et, mais évidemment, il y a des choses qui m'échappent totalement. Donc, je laisse faire, parce que c'est plus. Je sais que ça ne mange pas de pain, ça n'a rien contre la foi et contre les mœurs. On y va, rôle jeunesse. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait partie de faute. On est sans cesse un peu en éveil pour comprendre un peu comment il pense, pourquoi il a fait ça. Et, c'est ça la mission aussi.
Le rocher est toujours chez vous?
Ah, toujours, oui. Ils font une œuvre considérable. Tout à l'heure, demander si ça se passe bien dans la cité. Oui, la cité est très apaisée, et je pense en raison des chrétiens. Et chez nous, le rocher a une incidence plus qu'importante. Ça fait 20 ans qu'ils y sont. Hein. Donc, c'est quand même une grosse présence.
J'ai passé deux week-ends chez vous il y a une douzaine d'années.
Avec le rocher. Ah oui, vous avez quitté la responsable d'antenne à l'époque.
Ah, je ne m'en souviens plus.
D'accord. Vous avez des pécerons peut-être?
Ah oui, c'est ça.
Oui, d'accord.
C'est ça.
Ah, okay. Non, ils font un très gros travail de présence. Ce qu'on disait, de présence, d'accueil, tranquillement. Ce qui touche beaucoup, c'est de vivre avec les gens. Mmh. Je passe beaucoup de temps dans la cité. Moi, j'arrive le matin à 7h, je repars parfois, il est hyper tard. En fait,
parce que je n'habite pas sur place.
Non, j'habite pas sur place. J'habite à l'extérieur. Le presbytère des prêtres est à l'extérieur. J'aurais souhaité vivre à l'intérieur. Enfin, les deux positions justifient. C'est vrai que parfois, ça permet de prendre un petit peu de recul.
Ah, vous vous retrouvez le soir à plusieurs prêtres?
Ouais, non, je rentre hyper tard, ils sont déjà couchés.
Bah, c'est génial.
Ils sont déjà couchés.
Non, mais de vous retrouver.
Oui. Non, mais c'est vrai.
Ah bah oui. Donc,
t'entends, j'aime bien être sur place parce que ça me permet de savoir. Plusieurs fois, j'aurais voulu être sur place quand il y a eu des coups de feu, parce que pour être là directement sur un peu sur zone, essayer d'apaiser les tensions. Voilà. Les deux situations, il y a des prêtres qui vivent sur place, tout. Voilà. Donc, mais j'y suis. Enfin, l'important, c'est d'être auprès des gens. Donc, aller au marché, dès qu'il y a un truc un peu important. Hop, on est là, sur l'Aïd, je suis là, quand je suis invité à la mosquée, là, c'est bientôt le ramadan, c'est la semaine prochaine que ça commence. Donc il va y avoir des trucs, donc voilà, faut être présent vraiment à la vie des gens, je vais faire mes courses, j'ai tout à l'heure, je vais acheter une pomme, un machin au marché, je vais au Lidl, alors chez nous, il y a un unique supermarché pour une si grande cité, c'est l'enfer ce supermarché, vous y passez des heures et des heures, tout le monde est sous tension en rentrant dedans, mais... Moi, j'ai fait le choix d'aller chercher mon café là-bas. Quoi. C'est parce que je suis prêtre. Je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire. Parce que comme ça, je vois. Et puis les gens me disent, mais il fait comme nous. Je prends les transports en commun. Je suis à pied. Je suis en vélo. Pour être au maximum, partager cette vie. Et puis comme ça, c'est hyper concret. Parce que le Lidl, ça revient souvent dans les homélies. Toujours, ben oui, mais ça parle aux gens, les bus, ça parle aux gens, et on sait, je sais, moi aussi, quand je suis le machin, l'autre jour, il y avait une queue pas possible, il y a un gars qui était avec ses boîtes de café, il est passé devant tout le monde, il ne comprenait pas le français et tout, tout le monde monte en pression, et forcément, donc une envie, c'est de le jeter, vous voyez, donc c'est que des choses comme ça, donc ça permet d'être vraiment, et ça, c'est la force des chrétiens, ça, on est capable de le faire, et ça, vous savez, on a de très bons contacts avec les élus, quel que soit le bord politique, parce que ben, le rocher ou la paroisse, aujourd'hui c'est un peu la paroisse, ils savent qu'on va à des endroits, puis en gros, c'est, si tu as besoin d'aide, nous on est là, laïcité ou pas, parce que tu fais des trucs que nous on ne sait pas faire, quoi. Puis si tu n'es pas là, on aiguille. Hein. Les députés chez nous, c'est France Insoumise, quand j'appelle, la précédente et l'actuelle, elle décroche tout de suite, et quand je demande un rendez-vous, je l'ai pour les prochaines heures, parce qu'ils savent très bien qu'on est... Ils ne savent pas faire ce qu'on sait faire, ce qu'on fait. Et d'aller chez les gens, de comprendre, d'avoir du temps pour comprendre les gens. Et le Rocher, c'est la seule association qui est capable de le faire. Les autres associations, bon, c'est comme ça. À 18h, les gens, ils rentrent chez eux. C'est tout à fait normal. C'est, ben voilà, le Rocher, d'autres associations, à 18h, ils sont là, quoi. Et puis s'il faut être là à 22h, ils seront là à 22h. Et les paroissiens et le curé, ben, s'il faut être là à 22h, on est là à 22h. C'est où est le problème, hein. Et l'église, ben, on l'ouvre à 7h parce que ben, les gens, ils ont besoin d'aller... prier, mettre un petit siège parfois avant d'aller prier. Si je laisse l'église ouverte à 9h, j'ai perdu beaucoup de monde si j'ouvre l'église à 9h. Donc à 7h, l'église est ouverte, elle est disponible parfois pour écouter, prier. T'entends, il y a mon ami Gilles, je vais pas raconter, mon ami Gilles, il fichait un peu les jetons. Il venait, un gars qui a un casier judiciaire effroyable, ça soit à côté de moi à 7h du matin, il n'y a personne dans l'église, il n'y a personne dans le quartier, il y a juste une petite... J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. Mais écoute, tu vas tuer personne, on va prier tous les deux et ça se passera bien après. Voilà, c'est ça un peu notre force, c'est d'être dedans, quoi. Et c'est génial.
Le BAFA, là, vous parlez du PASSO.
Moi, je les envoie soit à la focale où il y avait des trucs en Seine-Saint-Denis, je sais faisait des trucs. Là, donc, j'envoie, j'en ai encore deux, là, j'ai deux petits jeunes, là, qui ont l'air un peu motivés, donc je vais les débrancher. Et ça ne devrait pas trop marcher.
Et pour recharger les batteries, vous allez où ?
Alors, je vais voir mes parents.
Mais indépendamment de la famille.
Je vais en Terre Sainte. Je suis fan de la Terre Sainte. Et j'avoue que alors, les paroissiens sont contents de me voir partir en Terre Sainte, même s'ils n'aiment pas me voir partir parce qu'ils ont peur que je ne revienne jamais. Mais j'ai passé donc un an en Jérusalem, moi, qui m'a bouleversé. J'ai appris beaucoup de choses, qui m'a vraiment préparé à ma mission. Et puis, je me suis attaché de cœur à cette terre. Alors, il y a un monastère que j'aime bien, là, j'aime bien les sœurs de Bethléem, là, les sœurs
Hermites. Super.
Donc, leur petit monastère de Der Rafat. Donc, je vais aller chez elles, là, et puis elles me donnent leur ermitage. Alors, je leur consacre une soirée ou une messe comme ce soir. Là, je donne tous les témoignages, les mots, les notes, appris. Puis moi, je suis bien, je suis dans mon ermitage, ça me va très bien. Puis, je suis content de prier. Ce que j'aime bien, c'est que vous savez quand la messe commence, vous ne savez pas du tout quand elle va finir. Et vous êtes là pour ça. Donc c'est là voilà, ce que je fais. Et puis j'ai jamais fait du sport, donc je fais du sport aussi.
Vous croisez souvent Luc Pielle ?
Par téléphone, on s'appelait parce que je voulais qu'il vienne.
Parce que lui, il est tout le temps, Terre Sainte.
Figurez-vous, on s'est croisé une ou deux fois, c'est tout. On n'est pas aux mêmes périodes. Voilà, donc c'est comme ça que je me ressource.
La Terre Sainte, c'est le meilleur endroit. Terre Sainte, c'est le meilleur endroit.
Ah, c'est sympa, oui. Non, j'ai dit une messe au Saint-Sépulcre, une messe à Bethléem, après je vais chez les sœurs et ça me va très bien. Les sœurs. Merci. Avec plaisir, on va faire une petite prière, là aussi, prier pour la mission, donc il faut retourner les cœurs. Hein. Non, mais c'est sérieux, il faut vraiment. Il faut demander au Seigneur, il faut avoir le désir de remplir son église. Le Seigneur répondra. Je veux dire, on va donner du boulot à notre curé. Mais il paraît pas des réunions, des trucs comme ça, parce que ça nous emmène, en fait. Mais s'occuper des âmes et tout, là, ça va être formidable. Prêcher, confesser. Non, mais voilà, c'est beau, la mission.
Il y a des musulmans qui viennent vous voir ou
ouais, tous les jours. Tous les jours.
Oui, non, mais d'accord, mais pour une question.
Non, il y en a très peu. J'ai baptisé un Algérien, j'ai baptisé quelle région, une Sénégalaise. J'ai eu une Malienne en préchauffage, mais elle est repartie au pays avant le Covid.
En préchauffage.
Ça,
C'est très difficile parce qu'on est les uns sur les autres. Hein. Quand quelqu'un rentre dans l'église, il y a forcément 4000 personnes qui l'ont vu. Donc je disais, j'ai un immeuble qui fait 13 étages à côté de l'église, j'en ai un autre qui fait 13 étages un peu plus loin. Maintenant, j'ai des bâtiments juste devant, donc c'est assez compliqué. Voilà, je me dis qu'un jour, ça pourrait basculer. Je ne sais pas quand, comment, mais ça pourrait basculer. Et je pense que oui, je pense que ça... Bon, ça, c'est des réflexions personnelles, vous en faites ce que vous voulez... Je pense justement le durcissement d'une certaine partie de l'islam, c'est qu'à l'intérieur, il y a énormément de jeux. Quoi. Et puis, il y a pas mal de personnes en lisant le Coran qui s'aperçoivent qu'il y a des trucs qui ne collent pas. Alors, on voit bien qu'ils essayent de coller au discours chrétien, que présenter Allah comme un dieu d'amour, etc., etc. Mais on sent que ça... Ils sentent bien que ça ne colle pas. Alors nous, ça va être difficile de recevoir le baptême, parce qu'encore une fois, à Seine-Saint-Denis, on est 1,9 million, on est les uns sur les autres, et puis il y a une vraie pression familiale. Les Kabyles sont... Les Kabyles, bon, ça on le sait, c'est une terre qui était chrétienne. Donc là, la Kabylie, c'est assez flottant. Hein. On sait que ça bascule énormément. Après, bon, on va voir. Mais les relations sont bonnes. Les relations sont... d'excellentes relations avec beaucoup de musulmans. Et je me dis qu'à force de passer, de repasser, de prier pour eux...
Vous êtes le serveur ?
Ah oui, non, on sait, moi, oui.
Vous savez.
Et puis, il n'y a pas que moi, je vous ai parlé de cette fraternité missionnaire des cités, il y a beaucoup de prêtres qui sont sous tous les radars. On est un peu seul dans le presbytérien, même à Seine-Saint-Denis, je suis un peu le seul dans le truc. Là. On a une mission qui est incroyable, on a des églises qui sont étonnantes, et c'est à part, hein, même dans un presbytérium à Seine-Saint-Denis, à Paris, à Strasbourg, à, je ne sais pas comment c'est, à Rennes. Donc c'est pour ça qu'on essaie de se mettre un peu ensemble, pour partager un peu ce qu'on fait. Voilà, moi je vous dis que ça pourrait basculer un moment ou un autre. Ça pourrait. Mais si ça bascule, on va se retrouver... Alors c'est bien que ça bascule, mais est-ce qu'on est prêt dans l'église catholique à accueillir 10 000 musulmans qui demandent le baptême ? Ça, je suis sûr. Et comment on va respecter aussi leur culture musulmane ? Parce que c'est des vraies questions. Hein. Une femme musulmane qui demande le baptême, qui a toujours vécu avec un voile, est-ce que je lui demandais d'enlever son voile ? Moi, je dis non. Ben, pourquoi elle m'enlèverait son voile ? Oui. Ils ont été structurés. Hein. Il faut penser à ça. Est-ce que je vais le forcer à bouffer du saucisson ? Enfin, oui, de boire de l'alcool.
Non. Santé,
ouais, il faut qu'ils se sentent. Non, mais est-ce qu'on est en mesure? Oui, on va faire tout de suite rentrer des personnes dans des clous. Si tu es catholique, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, ta. Puis je pense qu'on a des vraies conversions avant de les accueillir. Parce que nous, on a une dimension de la communauté qui est quand même assez limitée. Hein. On a une dimension de la communauté qui est assez limitée. Un musulman, il a une dimension de la communauté qui est large. Je ne suis pas sûr qu'on ait des capacités d'accueil aujourd'hui. Vous savez, quand on a baptisé justement l'Algérien, tout de suite, il dit, mais attendez, il va se retrouver tout seul dans sa maison. Il faut organiser une fête paroissiale. C'était Pâques. Est-ce que vous êtes capable d'oublier toutes vos familles, votre le gigot, le machin, le truc, etc., pour accueillir la famille musulmane qui va demander le baptême ? Ça, c'est une vraie question. Et si la réponse, on n'est pas capable, on ne les baptisera pas. Dieu ne nous les enverra pas. Si on dit, ok, les petits-enfants, ils vont rester chez eux, on accueille cette famille malienne qui demande le baptême, parce que si on les baptise, ils vont se retrouver tout seuls. Donc le gigot en famille, tout ça, on oublie, on fait une fête paroissiale sur là pour les accueillir. Là, Dieu va nous les envoyer. Ça, c'est une vraie question. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Et donc, ben, la réponse pour moi, elle est non aujourd'hui. On n'en est pas capable. Donc Dieu ne nous les envoie pas, parce qu'on les envoie au casse-pipe. On les envoie au casse-pipe. On est incapable de se mettre à leur niveau, au niveau de la réception de la vie communautaire. Hein. Nous, pour l'instant, la fraternité, c'est des mots, excusez-moi. Hein. C'est des mots. On a notre petit précaré familiaux, c'est très bien, j'ai rien contre, mais il ne faut pas y toucher. Si M. le curé décide de faire une fête paroissiale le jour de Noël, il y a fort à parier qu'il se retrouve tout seul. Vous avez la réponse.
Figure-toi que pas tout à fait.
Ah bon? Ah, mais très bien. Ah, mais très bien. Moi, j'ai pensé le 25 décembre.
Oui,
le 24 au soir. Le 24 au soir, ça peut marcher, oui. Mais en fait, oui, c'est des vraies questions. C'est des vraies questions. Moi, je ne dis pas que vous, parce qu'on m'avait posé la question, j'étais au congrès mission pour ça. Je dis, mais Voilà, la question du voile, c'est aujourd'hui, c'est un truc qui est un peu crispé en France, qui est crispant. Merde, c'est un objet, enfin, c'est d'abord un truc religieux. Ben, si la femme, elle veut rester voilée, on ne va pas l'acheter. Si elle vient à la messe, elle est baptisée, qu'elle est voilée dans le vide, elle reste. Hein. Pas de problème. Ouais, non, mais ça, il faut que nous, on résolvions ces questions-là, sinon on ne peut pas les accueillir. Et on les envoie au casse-pipe, ils vont se retrouver tout seuls, ils vont être déçus, se dire, mais moi, quand j'étais dans l'islam, quand on fait, je ne sais pas quelle fête, etc., on rassemble tout le monde. Vous, les catholiques, vous rassemblez personne. Vous êtes entre vous. Vous allez à la messe, vous barrez. On a un vrai travail à faire. Hein.
C'est sûr.
La question, encore une fois, la question de la fraternité, ce que vous appelez pas français, je pense que c'est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Hein. Là, on a des vrais efforts à faire. Hein. Mais voilà, mais je pense que ça peut arriver. Ça peut arriver en Occident, ça peut arriver. Allez, il faut aller prier. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je reviens répondre aux questions alors. Allez, je vous propose, on va se confier à la Sainte Vierge. On va remercier Marie et par elle le Seigneur pour les belles choses. Et puis, voilà ce temps que vous avez eu avec les séminaristes. Nous avons la capacité d'accueillir tous ceux que Dieu voudra nous donner et nous envoyer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Bonne journée de
Max. Merci.
Sympathrice.
Eh oui, c'est vrai.